Dans le Tempo, épisode 59. Aujourd'hui, on explore un nouveau métier de la musique. On y va. Vous êtes dans DLT,
le
podcast des passionnés de musique.
Oui.
Je suis avec Daz, évidemment, vous l'avez reconnu, ça va?
Oui, c'est moi, bonsoir.
C'est moi. Tout le monde te connaît, Daz, après tout.
Oui, c'est vrai que...
Comme le loup blanc.
La fame, le loup blanc, j'aime bien,
c'est bien.
Le loup créole, je préfère, mais ok, let's go le loup blanc. Oui, ça va très bien, Salman. Et toi, ça va, Salman?
Écoute, tout va bien, je suis content de refaire un épisode. Ça faisait 15 jours, mine de rien, qu'on n'avait pas tourné de
DLT. Dernier épisode en date avec...
Avec Romain Molécule.
Non.
Ah non, t'as raison, avec la BCDR.
Avec la BCDR.
C'est pas encore sorti, c'est pour ça.
Ah, il est pas sorti.
Au moment où ça sort demain.
Ok. Oui, je suis jamais au courant, moi, du planning de sortie. Je fais les émissions, mais après...
On s'adapte quand on peut. Vous connaissez ça, les plannings de sortie, le genre de chose, ça vous parle?
C'est
vrai. Mais alors dis-moi, mais de quelle profession allons-nous parler aujourd'hui, Salman?
Eh bien, nous allons parler d'un métier, le métier d'attaché de presse.
Ça alors?
Et tu as une chose incroyable. On a deux invités. Et tu sais quel est leur métier?
J'espère qu'elles sont attachées de presse.
Oui, c'est incroyable. Nous sommes avec Patricia Tellia et avec Anne-Sophie Mattei. Merci
Bienvenue.
Beaucoup toutes les deux d'être avec nous.
Bonjour.
Elles sont les timides, elles parlaient avant. Bon, je suis content de vous recevoir. En plus, ça a été un peu compliqué à organiser, mais on a réussi à le faire parce que ça faisait des semaines, voire des mois que je voulais qu'on parle de ce métier. Un métier essentiel, l'attachée de presse qui... Pour dire simple, pour faire ça rapidement, fait le lien entre des projets culturels, des artistes, et puis les acteurs médiatiques, avec le monde extérieur, on peut le dire d'une certaine manière comme ça. Évidemment, il y a plein de précisions à apporter, en quoi consiste votre métier, comment ça fonctionne, quels sont les changements qu'on a observés ces dernières années, puisque en fonction des évolutions médiatiques, j'imagine que vous adaptez aussi, on va en discuter. Ça vous va?
Ouais.
Ouais.
C'est un super programme.
Ouais, très bien. Eh bien, je vous présente quand même rapidement avant.
Oui, ça serait chouette.
Patricia, toi, tu es attachée de presse indépendante depuis une vingtaine d'années, notamment à travers une structure que tu as montée, Aura, ton bureau de presse installé à Nantes. Bon, tu as fait d'autres choses dans le monde de la culture auparavant, mais c'est vraiment en tant qu'attachée de presse que tu es reconnue, ton travail est vraiment reconnu. Notamment, tu travailles autour du développement d'artistes. Je sais que c'est un truc qui te tient à cœur. C'est ce qui te fait le plus plaisir d'accompagner en début de carrière plutôt les artistes.
Absolument.
Les tournées aussi, je sais que ça tient à cœur. Et puis bon, on peut citer rapidement des gens avec qui tu as travaillé par le passé. Plutôt dans l'esprit pop et rock, c'est quand même des esthétiques que tu travailles plus souvent, j'ai l'impression.
Plutôt,
ouais. Stromae, Angèle, historiquement, Brokenback, Gaëtan Roussel, Radio Elvis. Puis aujourd'hui,
des petits artistes.
Oui, des petits artistes, ouais. Puis aujourd'hui, tu travailles avec Aldebert, Pierre Demer, Zao de Sagazan, Haute, The Haunted Youth, Suzanne. Pour des festivals aussi, t'es aussi investi dans des projets comme Majeur, dont on rentrera dans le détail. Ça te va à peu près en un résumé globalement, ton activité?
Ouais, puis le faire,
bien sûr.
5 ans. Ouais.
Très active, j'imagine que tu ne t'ennuies pas.
Non, je ne m'ennuie pas.
Anne-Sophie, pareil, toi aussi, une longue expérience dans le monde de la musique de manière générale. Tu as commencé, si je dis pas de bêtises, un de tes premiers jobs, c'était réalisatrice chez Skyrock pour l'émission emblématique Planet Rap et puis pour Bum Rush, pour des émissions spé.
Ouais.
Les émissions de nuit. Tu devais pas beaucoup dormir la nuit.
Non, je travaillais, je ne pouvais pas dormir cette semaine.
Et puis depuis, est-ce que je dis une bêtise, mais depuis à peu près 4-5 ans, tu as lancé vraiment ta structure d'attaché de presse. Tu travailles autour d'esthétiques assez différentes, t'es notamment passionné par le jazz, des artistes aussi qui s'inspirent de musique traditionnelle. Alors on peut citer Maya Kamati qui fait plutôt de la pop, elle est réunionnaise.
L'urban créole.
Ouais, l'urban créole, pardon.
S'il vous plaît.
Très bien.
Voilà, la Réunion, elle est là, la Réunion.
Oui.
Sian Potok qui mélange du jazz et des musiques traditionnelles. Elle utilise un instrument particulier, c'est quoi?
Kamelin Goni, c'est une harpe malienne, on connaît surtout la kora.
Ok.
Et Sona Jobarté qui en joue, la musicienne gambienne. Et elle joue donc du Kamelin Goni qui ressemble à la kora, qui est un instrument assez impressionnant et très très beau. Elle
n'est
pas vraiment dans du trad non plus. Enfin, tu vois,
Elle s'inspire, elle mélange.
Ouais, à l'image de son histoire. Elle est née à Los Angeles, elle est indienne et congolaise. Enfin, tu vois, c'est.
Ah ouais.
Ok. C'est assez étonnant.
Et puis, tu as une esthétique que tu aimes bien travailler, qui est le rap, puisque tu accompagnes Rossé. Je sais qu'à des moments, tu accompagnes Kondo aussi. Rappeuse en liberté, un projet dont on parlera un peu plus en détail. Bro, Grodash, il y a plein de gens avec qui tu travailles ou as travaillé.
Exactement.
Je précise aussi d'ailleurs que tu es au CA de... Moi, je connaissais pas, je t'avoue, le Mila.
Le Mila, ouais, c'est le marché des labels indépendants. On est dans le 18e et ça regroupe différents métiers de la musique, qu'ils soient producteurs, labels, diffuseurs, chanteur grunt est là-bas aussi. C'est différents métiers de la musique.
C'est une forme de dispositif de soutien à des acteurs de l'industrie musicale. Ouais. Okay.
Ça nous permet de nous réunir autour de problématiques communes, parce que souvent, tu es un peu seul dans ton métier. Et c'est assez chouette. Et en l'occurrence, je fais partie d'un dispositif qui s'appelle Crescendo, mm-hmm. autour des femmes dans la musique. On connaît bien Majeur, J7SO, enfin, tous ces dispositifs qui mettent en avant les femmes.
On en parlera, parce que j'ai envie qu'on fasse une partie un peu sur l'engagement. Est-ce que c'est un métier d'engagement? Pas forcément d'engagement politique ou pour de grandes causes, mais même vis-à-vis des artistes qu'on défend, etc. Quel rapport on a à ces artistes, par exemple? Mais ce que j'aimerais, pour commencer, si ça vous va, c'est juste rappeler un peu les bases de votre métier. Je sais pas, Patricia, si tu veux juste résumer en quelques phrases en quoi consiste ton métier et pourquoi pas même ton quotidien.
Pour résumer mon métier, c'est mettre tout en œuvre pour développer la plus grande visibilité possible pour les artistes ou les projets qu'on nous confie, en sachant que cette visibilité n'est pas forcément attendue au même endroit pour chacune ou chacun, en fonction de son esthétique, de sa géographie, de son endroit de carrière, de ses envies. Tout le monde n'a pas, tous les artistes n'ont pas envie de faire des concerts à Alu Arena. Mmh. Tous les artistes n'ont pas envie d'être exposés au maximum. Donc ça, nous, l'essentiel, c'est de trouver les bons moyens et les bons vecteurs pour satisfaire les souhaits des artistes avec lesquels on travaille et de leurs équipes. Moi, mon quotidien, c'est comme je fais beaucoup de promos de tournées en région, donc avec des horaires qui peuvent paraître un tout petit peu différents que des médias nationaux pour des histoires de pratiques urbaines, c'est plus facile d'aller à la radio quand on habite dans une ville moyenne que d'aller travailler dans un grand quotidien national. Moi, j'arrive à joindre des journalistes vers 9h du matin, plus tous les décrochages très tôt. Et comme je suis quelqu'un qui se lève plutôt tôt, je commence généralement vers 8h. Et mon quotidien, c'est ça, c'est d'appeler, de mailer, de contacter et de convaincre toute la journée des médias, enfin des hommes et des femmes qui font partie des médias, que les artistes avec lesquels je travaille méritent beaucoup de place pour que le plus de gens possible les découvrent.
Anne-Sophie, tu te retrouves dans cette description. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, même que toi, dans ta pratique, tu intègres? C'est à peu près ça.
Alors moi, j'accompagne aussi, donc comme Patricia, pour les relations presse. Puis je me charge aussi d'essayer de trouver un écosystème, parce que donc effectivement, on est attaché de presse, donc ça veut dire qu'on s'occupe de trouver des médias pertinents pour relayer le travail des artistes avec qui on est, sur des temporalités, sorties d'albums, concerts, mais aussi pourquoi pas de proposer. Moi, je sais que souvent j'essaie de trouver, je travaille aussi beaucoup avec des émergents, donc qui n'ont pas forcément ni tourneur ni personne pour s'occuper de la recherche de subventions, parce que c'est pas juste la presse de ce fait. Donc j'essaye aussi d'accompagner dans cette globalité là en fonction de ce qu'on a défini en amont, l'artiste avec qui je travaille, pour lui permettre plus de confort. Et effectivement, je me retrouve dans ces temporalités, si ce n'est les horaires, hein, qui ne sont pas les mêmes. Nous sommes à Paris. Oh, j'ai pas beaucoup de journalistes à 9h du matin. Donc, voilà. Quand je suis debout, je prépare mes mails.
C'est marrant, parce que là, tout de suite, on voit que la frontière, alors je sais pas si tu considères que ça rentre dans tes compétences d'attaché de presse, mais d'accompagner un peu plus largement. Je sais pas, Daz, toi, quelle image t'en avais, tu vois, mais...
Justement, c'était la question que je me posais.
Entre, est-ce que toute la communication d'un artiste, c'est lié à la presse ou pas? Est-ce qu'il y a des...
C'est la presse au sens large. J'imagine qu'il y a aussi la partie réseau. Tu vois, qui dit à l'artiste, ça serait peut-être bien qu'il soit sur TikTok quand même. Tu vois, est-ce que c'est l'attaché de presse? Est-ce que c'est le manager?
Est-ce qu'il y a des community managers aussi? Ouais, est-ce qu'on fait la même chose.
Tu vois, enfin moi, j'avais du mal à percevoir la distinction entre attaché de presse et agent.
Ouais.
Tu vois, parce que je crois qu'il y en a un qui fait un peu l'autre. Enfin, tu vois, il y a un agent, il va essayer de te trouver des bails de justement médiatiques, de te positionner dans des publications, ou pas du tout.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Pour moi, déjà, attaché de presse, ça va être tout ce qui va être une mise en valeur par rapport à des médias. Donc, nous, on va charger de trouver des relais médiatiques, que ce soit des télés, presse, radio.
Web.
Web, enfin, tout ce qui va faire résonner un projet. Et de façon, j'en reviens toujours même, de façon pertinente. Ça veut dire qu'un artiste émergent, c'est pas sûr que demain, il fasse taratata. Peut-être, mais enfin, tu vois, donc de façon pertinente par rapport à son développement. Et ensuite, agent, c'est une autre histoire. Ce dont tu parles, c'est parce que tu parles de TikTok, de placement de produits, de ça, c'est encore autre chose. On peut être amené à trouver des gens qui conduiront les artistes avec qui on travaille vers ce genre de choses et de promotion. Mais c'est pas forcément, enfin, c'est pas notre cœur de métier, du moins, c'est pas le mien.
Ouais, enfin, non, mais parce que quand tu parles, par exemple, du fait que toi, tu fais plus que trouver des relais médiatiques pour les artistes que t'accompagnes, où tu te charges, par exemple, de prendre un petit peu le rôle de tourneur ou de choses comme ça pour
essayer de. On se charge de trouver des personnes ressources.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a une discussion avec l'artiste au tout début, on travaille avec lui. Donc, si tu viens me chercher pour des relations presse, simplement, c'est ce qui se passera. C'est ce qu'on définit ensemble. On parle aussi de stratégie. Je pense que Patricia se retrouve aussi dans cette discussion, à savoir à quel moment sortir mon single et ce premier clip et mon visualizer. On est proche de l'artiste sur beaucoup de choses et c'est ce qu'on définit avec lui dans le travail qu'on a envie de faire ensemble et la façon de lui apporter un développement.
D'accord.
Et quand je parle d'écosystème, c'est un entourage.
Tu vois,
ça va être, et je ne suis pas tourneur, non, mais je peux dire, bah, dans ton esthétique, je connais telle structure ou telle personne qui peut s'occuper de ton tour.
Ok, voilà. C'est un truc.
Donc c'est de la mise en relation.
Oui.
D'accord. Okay.
Le fait de travailler avec. Il y a d'autres professionnels qui entourent un artiste. Est-ce que vous êtes justement, Patricia, en relation avec ces gens-là sans cesse? Que ça s'intègre aussi à une stratégie de communication plus globale, j'imagine, quand même?
Alors, moi, comme je fais beaucoup de promos de tournées, généralement, les artistes que j'accompagne ont déjà des environnements. Je nomme au masculin, mais pas parce qu'il n'y a que des hommes dans les entourages dans lesquels je travaille. Mais... parce qu'on dit un tourneur, on dit voilà. Donc les gens qui ont des tourneurs ont généralement une maison de disques ou leur propre label en distribution, voire un éditeur, quelquefois des managers ou manageuses. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de travailler avec tous ces gens-là, mais parce que j'aime travailler comme ça. Et parce que généralement, et ça va re-s'accentuer, moi je vois... déjà deux fois depuis que je travaille, la place du live s'est extrêmement modifiée les quelques dernières années parce que ça devient l'endroit de la ressource financière et donc ça prend énormément de place, donc beaucoup de gens s'y intéressent, beaucoup de gens ont un avis sur ce sujet et que moi c'était une grande part de mon expertise, de mon métier. Et que l'autre chose, moi on me sollicite souvent parce que justement comme tu dis, moi j'ai une grosse connaissance de l'écosystème et du développement de l'écosystème, et que donc si il n'y a pas une de ces parties-là dans la chaîne, on sait très bien que moi je vais faire en sorte de faire une mise en réseau autour, que je précise quand même et non rémunéré. Moi, je suis rémunérée pour faire des relations presse parce qu'il y a des gens dont le travail est de construire des écosystèmes qui sont rémunérés pour le faire. Le fais.
Pardon, il y a un nom précis pour ces gens qui sont chargés un peu de construire un écosystème autour d'un artiste?
Ton manager peut le faire. T'as différents postes, effectivement.
Ton agent.
Ton agent, par exemple, qui trouvera le meilleur placement de produit. Comme ces jolis crocodiles qu'on voit sur vous, monsieur.
J'aimerais bien. J'aimerais bien Lacoste.
Mais je reprécise ça parce que c'est pas être attaché de presse n'est pas nous on a des obligations de moyens donc on doit mettre en œuvre mais pas de résultats.
Ça faut le
et autre chose.
D'accord.
Notre métier, on n'est pas une boîte à outils, même si ça peut le sembler de l'extérieur parce que toutes les deux on a une certaine expérience et un gros réseau. Moi, à aucun moment, quand un éditeur a signé un ou une artiste, me propose de collaborer pour le développement et qui a ni maison de disque ni tourneur autour, dans mon contrat, il y a écrit que je dois travailler en ce sens. Mon travail va aider à, et il se trouve que mon réseau fait que je ne m'abstiens pas quand je rencontre une maison de disques ou un tourneur de dire « Ah, je travaille avec tel ou tel artiste ». Mais en tout cas, ça n'est pas le cas. Le dernier artiste avec lequel je travaille, qui est un jeune groupe Vantec qui s'appelle Our Lights, ils ont juste été aidés par une SMAC, donc qui est une scène de musique actuelle en région, qui m'a sollicité en me disant « Ils sont programmés au Transmusical de Rennes ». Est-ce que ça t'intéresse de les accompagner? Il n'y avait qu'un titre. Donc c'est tout, un groupe qui a un titre, c'est tout. Ouais. Mais moi, on m'a demandé de développer, le groupe m'a payé pour développer de la visibilité. À aucun moment, je n'avais d'obligation de rien de plus. Mais ils sont venus me chercher, moi, parce que justement, et en Bretagne, et dans l'écosystème des transmusicales est plus large, mon réseau est grand, et qu'en effet, j'en ai parlé à plein de gens, et sont venus des tourneurs, des labels, des éditeurs, des gens de dispositifs d'accompagnement. Mais ce n'était pas ma mission, et ça n'est jamais ma mission.
Pas le métier premier, pour conclure.
Tu parles, Patricia, de réseau. Peut-être que Anne-Sophie peut nous dire, est-ce que c'est une des qualités d'ailleurs primordiales d'un attaché de presse? Globalement, qu'est-ce qui va faire qu'on ait un bon attaché de presse?
La ténacité ou l'envie de défendre un projet, la façon de le défendre. On nous confie un projet artistique et... on raconte une histoire autour, parce que oui, il est très beau, et on sait, enfin, parce qu'on sait à qui en parler aussi, au final. Quand Patricia parle d'obligation de moyens et pas de résultats. Ouais. Moi, je le dis aussi tout le temps, parce que tu vois, dans les revues de presse précédentes, que le monde était là, que c'est pas parce que t'as accès à tout ce réseau-là que toi, quand tu viendras me voir avec ton projet, t'auras les mêmes personnes qui relayeront. Moi, en fin de compte, je sais à qui m'adresser avec le projet que tu me donnes et j'espère bien que ça résonnera. Mais après, il faut savoir qu'il y aura peut-être d'autres sujets à traiter pour le journaliste, qu'il n'aura pas envie, il y a mille raisons pour qu'il écrive et qu'il écrive pas. Je suis pas dans une...
C'est pas garanti. Ouais.
Mais je présenterai à ce réseau, bien évidemment, ton projet avec le plus de mots pour le définir, le plus d'arguments, en fin de compte, pour te montrer à quel point il correspond à ta ligne éditoriale.
Pour pouvoir défendre un projet, un artiste, il faut que vous adhériez à la proposition artistique. Est-ce que ça vous arrive de représenter des artistes où en vrai la musique qui est produite, ça vous parle pas plus que ça et vous faites juste un taf vous faites votre devoir, mais sans avoir d'appétence ou d'acquaintance avec le contenu qui est produit.
Pour ma part, ça serait très compliqué, je crois. Okay. Et je suppose que d'autres te diront, c'est un métier comme un autre. Mais moi, je sais que ça serait compliqué pour moi d'approcher des médias avec qui je travaille régulièrement et avec un projet.
J'ai pas d'affinité,
c'est compliqué d'aller en parler après.
C'est un truc que tu partages, ça, Patricia?
Moi, c'est impossible. C'est même pas ça serait compliqué, ça n'est pas possible. Je sais pas faire ça. Moi, j'ai besoin d'être 100% en phase. J'ai besoin de chanter faux peut-être, mais chanter quand même tous les morceaux par cœur. Je connais les setlists sur le bout des doigts. Je sais quand un artiste a fait un pain. Je pense que je suis capable d'identifier en quelques secondes un seul titre que j'ai travaillé même il y a 20 ans, même plus. J'écoute les albums en boucle tout le temps jusqu'à ce que je les maîtrise, mais quand je dis je les maîtrise, ouais, totalement à fond, et le texte et la musique et le... Donc je saurais pas faire autrement.
Mais du coup, alors peut-être que c'était une partie que tu allais aborder après, mais comment est-ce que les artistes travaille avec vous? Est-ce que c'est eux qui viennent vous chercher? Est-ce que c'est vous qui en avez repéré en disant celui-là, j'aimerais bien bosser avec?
Non, mais t'as raison, c'est pertinent, parce que là vous nous dites en gros il faut que je croie au projet pour pouvoir bien le défendre, mais ça pose la question de comment justement vous récupérez le projet entre guillemets.
Moi, je sais que les artistes me contactent, alors que ça soit des labels, que ça soit le manager. On s'est rencontrés à un moment donné sur des projets. Et généralement, quand je dis oui, c'est des projets que j'aime, sinon j'irais pas les défendre. Ouais. Et là, je me dis waouh, j'ai trop de la chance de défendre ce projet-là. Et tu vois, je suis super contente, mais j'ai jamais prospecté.
Ok, d'accord.
Pareil pour toi. Est-ce que c'est une forme de luxe que de ne pas aller chercher des projets et de pouvoir se dire si ça me plaît pas, je le prends pas? Ou est-ce, parce qu'il y a une réalité du métier aussi, j'imagine, pour plein de gens, peut-être qui débutent, etc., et qui se disent, il faut que je me forme, moi je prends le premier projet qui vient, à la limite.
Moi j'ai débuté et j'ai pas démarché plus. Ouais.
Non, mais je sais pas comment tu peux aller proposer un projet pour lequel t'as pas d'affinité. Enfin, ça doit être très compliqué. Enfin, moi, je pourrais pas.
Moi, j'ai une maxime dans la vie qui dit ne jamais faire de choix pour de mauvaises raisons. Donc, ça veut dire, enfin, moi, en tout cas, c'est peut-être dans la période dans laquelle on vit, c'est un peu difficile d'entendre ça, mais moi, l'argent n'est pas une raison. Je préfère ne pas faire un projet. Et franchement, je préférerais faire autre chose comme métier que de sacrifier ce que je sais faire au profit de l'argent. Donc c'est quelque chose. J'ai refusé des projets parce que j'étais pas assez payée, clairement, ou parce que j'estime que s'il y a une rémunération qui correspond à un savoir-faire et que si on estime qu'on les a pas alors qu'on a mis beaucoup d'argent dans le studio, c'est qu'on a un sens des priorités, que je ne suis donc pas une priorité. Quand je dis moi, je dis ma fonction n'est pas une priorité. Et donc à partir de ce moment-là, je n'incrimine personne, mais moi, accepter un projet parce que c'est pas en ayant cette conviction profonde, pour moi ça serait renier quelque chose, mais peut-être il y a forcément des gens qui le font, mais je dis toujours aussi que si c'est pour une histoire d'argent parce que c'est moins cher, ou s'ils avaient l'argent, c'est une de nous deux qui viendrait chercher parce qu'ils voudraient chercher des gens qui le font avec une réelle motivation et un goût artistique pour le projet. Donc il ne faut pas faire comme ça. Je dis souvent ça. Ouais. J'ai l'honnêteté de dire, mais tu sais, il aurait l'argent, il viendrait me chercher moi, en fait. Mais voilà. Je trouve que c'est, on ne promotionne pas des petits pois ou des t-shirts ou un bien marchand. On développe des carrières. Et nous, si on échouait, on nous proposerait bien un autre projet derrière parce qu'on a assez d'expérience, on a déjà des gros carnets d'adresses, donc on nous dirait bon bah là ça a un peu moins bien marché, on va lui filer autre chose. Mais par contre, un artiste pour lequel le projet ne serait pas à la hauteur de la promotion qu'il attend, il a ouvert son ventre, il a mis les tripes sur la table, on ne recoudra pas en fait, ça on reviendra pas en arrière et ça peut briser quelqu'un. Donc moi je trouve que notre métier a une réelle responsabilité pour des êtres humains qui essayent de faire transmettre à beaucoup de gens un état d'âme, une passion, une vibration. Donc c'est pas rien quand même.
Mais comment justement vous considérez, qu'est-ce qui vous permet de qualifier là c'était un échec. En fait, à partir de combien de temps on considère que ça n'a pas marché ou que ça ne marchera pas? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'il peut y avoir un retournement de conjoncture où tu galères au début, personne veut parler de ton artiste et puis d'un seul coup, tac, en s'accrochant un petit peu, ça bascule et
C'est parfois compliqué, tu vois, c'est un début, comment tu sors de l'invisibilité, c'est une vraie question. Mais après, quand on est toute une armada et un écosystème autour, quand s'enchaîne et le tour et les demandes et le travail du manager, de la manageuse et tout ça, ça crée une cohésion et ça forcément tu il se passe des choses.
Ouais.
Voilà, moi je connais pas de
non, mais j'imagine
sans,
que vous avez
je connais pas ça, je connais pas une promo, je n'ai rien eu. Je ne sais pas.
Parce que j'imagine que comme vous avez bossé avec quand même pas mal d'artistes depuis pas mal de temps, vous avez un petit peu un séquençage d'un plan promo et un truc un petit peu pas standardisé, mais en tout cas se dire, ok, si je mets telle volonté dans cet artiste aujourd'hui, ça veut dire que aujourd'hui plus X semaines, moi, j'arrive à en être à peu près là. Voilà.
C'est à l'image de la vie, tu sais, c'est improbable, surréaliste. Ça se passe en fonction des gens, tu vois. Tu peux parler de stratégies qui se ressemblent sur tu sors ça d'abord, le titre fort à tel moment, bien évidemment, mais on peut pas prédire la
comment
suite et on a justement des belles surprises.
Est-ce qu'il y a quand même des facteurs qu'on peut retrouver, c'est-à-dire qu'on sait que de par l'esthétique musicale proposée, on sait que ça va rencontrer en réalité un public plus qu'un autre, ou alors que l'environnement médiatique est un peu plus à l'écoute de ce type de proposition. Enfin, je pense qu'il y a quand même aussi des trucs qu'on peut dégager objectifs entre guillemets. Non.
Non, mais c'est pareil, c'est de l'ordre. Enfin, c'est pas écrit en fin de compte, mais on sait que tel média a de l'appétence, mais après tu sais pas le traitement qu'il en fera, tu vois, si s'il fera ça une
c'est
avec.
C'est vraiment toujours un peu flou. Quand on se lance, on sait pas
toujours,
où on va vraiment.
C'est pour ça qu'on arrive avec cette obligation. Où tu dis, moi je le dis à chaque fois, donc les gens doivent se dire, mais peut-être que ça veut dire qu'elle ne veut pas travailler. Moi j'ai une obligation de moyens, mais pas de résultats.
Ouais.
Donc toutes ces revues de presse que t'as pu voir, ces playlistages, c'est pas forcé que tu auras les mêmes, mais pour autant, ce réseau existe. Je ferai ta proposition si elle est pertinente à ces personnes. J'espère bien qu'ils la saisiront, parce que c'est vraiment une belle proposition. Donc j'espère que ces gens iront saisir l'incroyable opportunité de diffuser ton projet magnifique. Mais je ne peux te le garantir. Et c'est bien dommage. Et moi, j'aurais envie que tous les médias avec qui je travaille diffusent, playlist, relais.
Mais du coup, mais ça vous arrive d'avoir justement des retours de l'entourage de l'artiste qui dit, ouais, là, quand même, comment ça se fait que ça décolle pas, ou est-ce que ça arrive qu'il y ait des...
Vous dites, vous avez mal travaillé, limite.
Ouais, bah ouais, enfin, tu vois, qui viennent vous voir en disant, putain, je comprends pas.
Moment prétention, dis non.
Bah non. ça m'est arrivé une fois, et c'est quelqu'un pour qui j'ai très bien travaillé, mais il a oublié de me payer, dis donc.
Ah,
donc comment te dire...
C'est dommage.
Comment te dire que sa parole ne peut pas compter de ce fait.
Je pense qu'il y a aussi, enfin, nous on se connaissait pas avant, et je pense qu'on a beaucoup de points communs dans la façon qu'on a travaillé et même de regard sur les choses. Il y a aussi le fait que je pense que de façon assez intuitive, on décide de collaborer avec des artistes et des équipes artistiques quand il y en a ou quand il va en avoir, avec des gens avec qui on va être en phase, avec des gens qui ont une estime de notre travail. Parce que on n'est pas des machines en fait.
Bien sûr.
Et c'est pas parce qu'on paye que c'est obligatoire.
Oui.
Nous, ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que notre fonction, notre rapport aux médias, et nous, on n'achète pas de contenu. Nous, notre travail, c'est de convaincre. On est payé pour convaincre. On n'est pas payé pour acheter des pages de pub, acheter du public reportage. Donc nous, c'est la conviction intérieure qu'on porte sur chacun des projets qui est notre moteur pour aller décrocher du résultat. À partir de ce moment-là, si autour de nous, les gens qui viennent nous chercher ne croient pas en nous, Je pense que notre voix,
non, mais sans...
ou ce qui nous porte ne marche pas.
Non, mais sans parler de croire, le fait que par exemple vous travaillez beaucoup avec des artistes émergents, ça implique parfois que l'entourage de l'artiste soit aussi émergent et n'ait pas les clés, n'ait pas les codes de l'industrie, ça, je sais pas comment ça fonctionne, et se disent peut-être, ok, on prend une attachée de presse. Direct, dans deux semaines, on est dans le quotidien.
Mais voilà, explique. T'as aussi un travail, donc t'expliques.
Ouais.
Tu prends le début et tu dis aussi que toutes ces, c'est un peu des médailles en chocolat, tu vois, un article et autres qui va faire plaisir aux tourneurs. Alors, t'expliques aussi que ta reconnaissance artistique, elle est pas liée non plus au nombre d'articles écrits sur ton projet. Que effectivement, que nous, si on prend un projet, c'est qu'on y croit, qu'on trouve qu'il est beau, qu'on espère bien évidemment avoir de très jolis retours, mais qu'en aucun cas, moi je le dis souvent aux artistes qui ont pas fait de collab avant avec des attachés de presse, qu'en aucun cas le nombre de retours conditionne la valeur de leur projet.
Ouais, c'est pas quantifiable. En fait.
Mais ouais, tu leur expliques qu'il est très très beau, que toi tu vas le porter à la connaissance de plus de noms possible et que t'espères bien avoir des retours magnifiques et puis que c'est une route. Qu'en fin de compte, ça veut dire que c'est laborieux. C'est une route et ça se construit. C'est pas en deux jours que tu vas trouver quelque chose. Tu vas avoir un premier EP, ensuite tu vas avoir un album, ensuite tu auras un deuxième album. C'est des collaborations au long terme. Tu vois, ça se construit pas en un jour.
Ouais.
Vous avez déjà rencontré des frustrations sur des projets que vous avez défendus le plus possible et vous vous êtes dit à un moment, ça méritait quand même une résonance plus importante et vous l'avez pas obtenue. Ça vous arrivait ça ? Patricia.
Tout le temps.
Bah ouais,
c'est
moi je suis jamais contente,
moi, je pense
que ça soit
toujours aller plus loin. Ouais.
Donc c'est un truc où je me dis, en plus je me dis, mais il n'entend pas que c'est un tube.
Ouais.
C'est incroyable, je dis quand même. Toi, ton métier, c'est tu n'entends pas que c'est un tube.
Ouais, bien
donc,
sûr.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Parce qu'on a toujours envie de plus, parce que comme on croit en ces projets, bien évidemment qu'on a envie d'une médiatisation incroyable à l'image de ce qu'on projette pour ce projet-là.
Et puis l'une comme l'autre, comme une partie de notre travail consiste à accompagner des développements, il faut pas oublier qu'il faut que ça dure en fait. Et donc il faut vraiment poser des bases extrêmement solides pour pouvoir construire au-dessus. Et puis ouais, que ça dure.
Je veux dire, à l'échelle de la carrière de l'artiste, l'installer sur le long terme, quoi.
Bah oui.
Pas seulement dans les relations presse, mais vraiment.
Oui. Et même sur les relations presse, être vigilant que d'une bonne compréhension de ce métier, d'une compréhension d'un métier qui évolue, que des fois on peut faire des allers-retours. De retourner vers des choses qu'on savait faire avant et puis qu'on faisait plus et qu'en fait maintenant on peut peut-être le faire parce que ce qu'on a essayé de mettre en place fonctionne moyennement et puis aussi de se dire que ça peut être d'autres équipes qui vont faire perdurer des carrières et qu'il faut rendre quelque chose qui est le plus à la hauteur possible pour que l'équipe. Enfin, moi, il y a des compétences que je n'ai pas. Par exemple, je ne sais pas travailler les réseaux radio. Skyrock, Europe 2, je sais pas. Enfin, c'est pas que je ne sais pas. Je saurais téléphoner, mais je sais pas ce réseau-là, donc je ne le prends pas. Donc, il y a un moment si l'idée de développer l'artiste est d'aller là. Moi, ça va être pas moi. Je peux pas. Donc je le confie. Et pour le confier à quelqu'un d'autre, il faut que ce qu'on ait fait soit vraiment fait le mieux possible pour que d'autres aient les arguments à.
Bah, complémenter ton travail avec d'autres
qui vont être des plein de vloggers.
T'as des gens dont c'est le métier. De faire rentrer des titres en radio. Alors effectivement, notre métier il a changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense par exemple au rap. Enfin, c'est la playlist qui est important. Il faut trouver des gens qui vont playlister. Enfin, tout ça, c'est des compétences qu'on a et qui s'ajoutent aux nôtres. Ouais. Bien évidemment, on évolue de façon constante à l'image de ce métier qui évolue tous les jours.
On va parler en détail dans une deuxième partie sur ce rapport aux médias, sur leur importance, sur les changements éventuels qui sont opérés, notamment avec l'arrivée des plateformes de streaming, etc. Le web s'est tellement développé pour l'écoute de la musique. Mais peut-être juste pour clore un peu ce panorama global, juste pour comprendre un peu quel est votre métier. Alors vous avez une particularité, c'est que vous êtes indépendante. Qu'est-ce que signifie l'autre versant de l'indépendance? C'est des gens intégrés au sein de certaines structures? Est-ce que c'est des labels, des majors? Est-ce qu'il y a d'autres structures, par exemple, qui font que des RP? J'en sais rien. Est-ce qu'à ce moment-là, ils sont indépendants? C'est quoi un peu comment ça se passe le métier globalement?
Bah, tu peux être dans une maison de disques, être attaché de presse chez Universal, dédié à des projets. Okay. Et nous, on a peut-être une pluralité d'esthétique qu'on peut défendre. C'est une chance, cette indépendance, parce qu'elle nous permet aussi de choisir. Moi, tu vois, en ce moment, je travaille pour Sainte-Victoire. C'est de la pop, Fleur Copain, chanson française. Enfin, c'est vraiment choisir des projets de femmes, incarnés par des personnes que j'aime, avec une très belle musique. Ça me donne cette chance d'avoir je travaille pour Paradis Artificiel, qui est un festival rap qui se passe à Lille, d'avoir de ce fait une pluralité de propositions que je vais défendre. Et puis tu vas être en maison de disques, peut-être dévoué à un artiste ou en avoir plusieurs. Enfin, généralement, c'est un peu plusieurs et c'est pas forcément ce que tu as choisi.
Ah oui.
Moi, je trouve que ma chance en tant qu'indépendante, c'est de faire des choix. Et j'ai un catalogue avec des artistes, mais incroyable.
Donc, c'est pour ça que quand on disait en début d'émission qu'effectivement, vous ne bossez qu'avec des projets pour lesquels vous croyez, avec lesquels vous êtes investi, c'est parce qu'effectivement, les attachés de presse qui ne seraient pas indépendants, eux, vont devoir gérer des artistes qu'on leur dit de gérer, en fait.
C'est des commerciaux d'un vêtement, et ils vont aller vendre une marque, et demain, ils changeront de marque.
C'est une lacune dans cette table ronde. C'est vrai qu'il manque quelqu'un qui pourrait représenter ce métier dans le cadre d'une structure type major, etc. Est-ce que c'est vraiment un métier de différent, ce moment-là, Patricia?
Non, c'est pas un métier différent. C'est qu'il y a d'autres... il y a d'autres contraintes.
T'es salarié, salarié, donc c'est quelqu'un qui va dire tu t'occupes de tel projet. Et toi, tu vas pas dire mais j'aime pas, tu peux pas. Tu vas dire c'est génial.
C'est ça la principale différence, Patricia. C'est
Moi, j'oublierai jamais de faire des rendez-vous en maison de disque parce qu'on externalise une partie de la promo pour X raisons et de voir au mur des Velleda où je savais pertinemment qu'au-dessous du 7e nom. Bah, de toute façon, les filles, elles peuvent pas appeler. Enfin, on peut pas avoir 32 noms d'artistes sur une liste. Je parle d'un siècle presque d'avant, pour ne pas dire maintenant, parce que ça aussi, ça change. Ça a aussi changé. Mais moi, j'ai souvenir, il y a très longtemps, de voir 32 noms sur un Velleda au mur, et de se dire, mais de toute façon, on peut pas dire à un journaliste, oui alors, donc je t'appelle pour 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. En bas, ça marche pas. Donc passer le 10e, déjà, c'est perdu. c'est perdu. Ou alors, on va dire, oui, alors on va mettre quelqu'un qui n'est pas encore expérimenté, qui est en stage, et qui sera renouvelé dans 6 mois, alors que ce qu'on oublie de dire de nos métiers, c'est qu'aussi, c'est la régularité et la fidélité de l'échange qui fait aussi la qualité de notre travail. On pourrait très bien donner nos carnets d'adresses pour ce qui représente administrativement un nom, un prénom, un nom de société, un téléphone, un mail, un 06, autour de la table. Mais même tous les quatre, même toutes les deux, peut-être. Et on se dirait, voilà, on se donne les 10 mêmes noms de médias et chacun appelle pour parler d'un truc. Et à la fin de la journée, on se dit qui a eu du résultat. Je sais pas si, par exemple, des relations avec des journalistes identifiés comme le responsable culture du plus grand quotidien régional français Ouest-France, de nous quatre, tout le monde va pouvoir l'avoir au téléphone. Ouais. Moi, je sais.
On sait que c'est toi.
Moi, je sais que c'est moi.
Sait que c'est toi.
Mais moi, je sais très bien que je peux toujours me brosser pour essayer d'avoir quelqu'un à Skyrock, quoi. Même en étant poli, même en ayant fait ma recherche, même si elle m'a donné le nom, même si elle m'a donné le 06.
Oui, donc c'est relationnel, quoi, vraiment.
C'est du travail de régulier, d'avoir les gens régulièrement et de ne pas leur parler que de musique et de comprendre, de maîtriser extrêmement bien leurs médias. Donc ça veut dire l'écouter, le lire sur d'autres choses que ce qu'on travaille et de ne pas être tout le temps dans la demande non plus.
Ouais, mais quand on sait qu'il y a des médias aussi qui eux-mêmes savent pas trop ce qu'ils font, tu vois, des radios qui changent complètement, qui prennent un virage et qui disent bon bah allez à partir de maintenant c'est le rap qui fonctionne, on va faire que du rap, tu vois. Genre Move par exemple, ils ont fait ça. Skyrock aussi à une époque, mais c'était il y a 20 ans.
Ouais. Mais justement, la ligne éditoriale, voilà. Tu regardes ce qui se passe dans le média, tu vois les changements de direction, de... Moi, je travaille avec Move, par exemple.
Moi, j'ai travaillé avec le Move.
Voilà, c'est ça.
Il y a un changement de direction, mais on retrouve une même culture, une même appétence pour une musique.
Mais toi, par exemple, tu travaillais pas avec le Move.
Si aussi, hein, si aussi. Très vieille.
toi, Patricia, tu travailles plus avec Move.
Moi, j'ai travaillé au début avec Génération aussi. J'ai travaillé au début avec Move et j'envoie des infos, par exemple, pour le faire ou pour Majeur, parce que dans ces projets-là, la ligne éditoriale de la radio permet d'envoyer d'infos, ou même Terre Noire ont fait.
Indica, peut-être.
Tunnel
avec Anna Tumazov.
On fait la première de Tunnel même.
Oh là là, elle est géniale cette émission. Donc, c'est Anna Tumazov, j'adore.
Alors que Terre Noire, c'est pas. On peut pas dire qu'on ait une chance aucune de voir un titre de Terre Noire passer en journée.
Là, c'est autre chose. C'est vraiment émission où elle s'occupe. Qu'elle gère magnifiquement bien. Moi, j'ai fait ça avec Bro et Lorraine Bastide autour de questions féministes. Voilà. C'est mené de main maître par Anna. C'est vraiment
C'est très, incroyable très comme émission.
Et c'est vraiment chouette, quoi. Et donc, ça veut dire que tu vas trouver des accroches par rapport à des artistes à des moments donnés sur une radio.
Oui, donc on ferme pas de porte.
Non.
Tu dis pas, ok, ce média, c'est dead, on n'ira jamais. Enfin,
non, tu peux proposer en fonction du projet que t'as, tu vois bien. Moi, j'ai pas forcément de projet Skyrock. J'ai travaillé à Skyrock, mais j'ai pas de projet Skyrock. Quand on est un peu en liberté, on travaille avec Move, par exemple. On est en partenariat avec Move. On travaille avec Move puisque Move développe et soutient les nouveaux projets et l'émergence. Tu vois, c'est en fonction. Je travaille avec RFI pour Chaîne Potok ou France Musique ou Le Monde Afrique. C'est en fonction de tes projets.
Mais est-ce que t'as des artistes qui peuvent te dire, alors par contre, je veto cette radio, je veux surtout pas y aller.
Évidemment.
Ouais, même moi.
Bah évidemment, moi aussi. T'écoutes.
T'écoutes ou tu peux dire ouais, mais tu sais, ils ont changé, c'est moins monolithique
non,
que ça.
Non, c'est le consentement. Tu dis.
C'est très important.
Tu écoutes ce que te dit l'autre. Il te dit je ne veux pas, tu ne fais pas.
Ouais. D'accord.
Moi, ça m'est arrivé de dire oui, mais l'émission 2. Ouais. Bah non, je t'ai dit non. Ouais. Ah ouais, c'est vrai.
D'accord.
Ouais. Parce que oui, t'as cette idée en te disant ah oui, mais quand même, il y a vraiment une super audience.
Mais tu peux dire que là, par exemple, tu peux te dire aussi, l'artiste, il a un angle mort incroyable sur un média parce qu'il. Il est parti sur une idée du média qui peut-être n'est plus réellement en phase avec la réalité. Peut-être que je pourrais essayer de...
Genre Valeurs Actuelles.
Tu
veux vraiment pas aller chez Valeurs Actuelles?
Tu lui expliques, hein, voilà, Radio Courtoisie, c'est pas pour toi. Tu t'expliques, tu dis, ah bah écoute, il y a eu un changement de direction et regarde, telle personne qui ressemble quand même à ton esthétique a fait cette émission dernièrement, t'envoie le lien du podcast, où il dit, ah ouais, mais c'est super, tu vois, pourquoi pas?
Moi, j'ai refusé d'accompagner un artiste, le manager a voulu absolument qu'il aille dans, sur une émission de radio, mmh. où moi, de toute façon, déjà, je ne les sollicite pas. Ils m'ont dit, on va le faire quand même. J'ai dit, ok, mais moi, je n'irai pas. Et ah j'y suis pas allé.
D'accord.
Et mon manager l'a emmené.
D'accord.
Mais et je me suis occupé de rien.
Sur ce truc-là.
Ouais.
Par contre, après, t'as continué à bosser avec, t'as pas dit, ok, bah, dans ce cas-là.
Ouais, mais j'ai regardé le truc un peu pas pareil.
Ouais, d'accord. Mmh, ok.
Bien sûr.
Ouais.
Avant de, promis, après, on clôt cette partie et on parle vraiment plus des médias en eux-mêmes. Mais vous avez parlé d'un truc essentiel qui est, lorsqu'on est au sein d'une structure, on est salarié. Lorsqu'on est indépendant, on ne l'est pas.
Moi, si.
Ouais, avec du partage salarial, ça.
Ouais.
Ouais. Mais tu pourrais peut-être nous en parler d'ailleurs. Mais juste globalement, comment ça fonctionne la rémunération d'un attaché de presse? Est-ce que on va travailler, notamment quand on est indépendant, sur un contrat, sur un certain temps? Est-ce que c'est on facture de la presta limite chaque jour? Bah j'ai fait ça. Alors je facture. Comment ça se passe la rémunération, la facturation?
Non, c'est un contrat. Tu passes. Enfin, moi je passe un contrat. On détermine un temps donné.
D'accord.
Et c'est de l'ordre. Plan, le temps. Je fais un plan média en amont. J'explique en fonction de l'esthétique du projet, quels médias on pourrait contacter et de ce fait peut-être avoir. Et voilà, donc sur un temps donné, une temporalité. Mais bien évidemment, si je travaille 3 mois avec quelqu'un et que 5 mois après j'ai une proposition, j'y réponds. Et je transmets à l'artiste, mais généralement, enfin, je suppose que c'est pareil pour toi, je pérennise des rapports. Donc ça veut dire que c'est chouette parce que ça me permet de travailler au long terme un projet. Vois-tu?
Oui,
la Bro, elle ressort un nouvel EP. J'étais sur le dernier projet sur l'album. À nouveau, elle ressort un EP. Donc, je centralise les demandes en attendant. Et voilà. C'est-à-dire donc, t'as une temporalité quand même. Tu dis, bah voilà, je travaille le temps du développement de ton projet X mois. Et tu vois ça avec l'artiste. Mais bien évidemment, si t'as une relance d'un média, demain, j'ai le New York Times qui m'appelle. Je fais, ah non, je peux pas.
Non, plus moi.
Désolé.
Non, okay. Mon contrat est terminé.
C'est ça, Patricia, sur ce que Anne-Sophie parle de temporalité. Est-ce que c'est toujours de l'ordre de 3 mois, 6 mois, un truc comme ça? Ou est-ce qu'on peut aussi s'engager sur 2 ans, un contrat de 2 ans?
Ah, bah, moi, la dernière tournée de Pierre de Mars, c'est 18 mois et je viens de renouveler mon contrat. Okay. Mais c'est particulier parce que, en fait, il se trouve que j'ai déjà travaillé pour W Spectacle. J'ai travaillé quasiment 4 ans sur Suzanne, mm-hmm. avec des contrats qui se sont renouvelés au fur et à mesure des tournées. Que je n'ai pas démarché, néanmoins j'étais quand même là à l'Hyper Weekend Festival et je pense que je les ai bien saoulés en leur disant que je voulais absolument bosser avec Pierre. Et Dieu sait si la première prestation était quand même quelque peu chaotique, mais j'étais sûre de moi de 100%. Et je leur en ai reparlé hier soir à la soirée énergie, donc comme quoi je m'étais... Moi, il n'y a pas trompé. Et le truc, c'est que voilà, chez W Spectacle, Simon Naudet voyait très très bien comment il envisageait de développer la scène pour Pierre et savait que ça allait durer 1 an et demi avec une des objectifs qui s'était fixé. Et donc, à partir de ce moment-là, mon travail allait durer toute cette période. Donc, quand c'est comme ça, comme on est quand même loin, moi, je fais un forfait sur un nombre de dates prévues, envisagées, dont certaines n'existent même pas. Il y en a qui sont en option. Et on se dit, par exemple, ça va être tant de temps pour tant de dates. On en rajoute toujours par rapport à ce qui est déjà fait ou ce qui est optionné. Et on ajuste, si vraiment ça déborde, ce qui a été le cas de Suzanne, on a rajouté. On s'est dit, on avait dit tant, et puis en fait, il y en a 30 de plus. Et sinon, et ça arrive rarement qu'il y en ait 2 de moins. Et si on a 2 de moins, c'est pas totalement une question. Mais ça permet, en tout cas dans mon cas, d'être toujours l'attaché de presse de la tournée de... Et pendant longtemps, et même quand il y a des trous dans cette tournée, la ZAO de Sagazan va par exemple prendre une petite pause pendant presque 3 semaines, il n'y aura pas de date, mais c'est pas parce qu'elle ne joue pas que je ne travaille pas. Mais en tout cas, je peux et sinon moi je suis plutôt une coureuse de fond, donc j'ai souvent des projets au moins de 6 mois.
Okay.
Et j'aime plutôt ça, et ça dure souvent assez longtemps, et le plus longtemps ça a été Angèle, où j'ai commencé en septembre 2017 et j'ai arrêté avant la tournée de cet été parce que de toute façon elle faisait pas du tout de promo, et quand elle est partie aux États-Unis il y a presque 1 an maintenant, avec le management on s'est dit que ça va, le travail avait été fait là.
Donc quasi 6 ans de collaboration.
Parce
et à chaque fois avec des contrats renouvelés.
Ouais. Et ajustés, des fois.
C'est ce qui est le plus pertinent, je trouve, c'est la course de fond.
Bah ouais.
C'est d'être là tout le long d'un développement. Mmh. Tu vois, et t'en parles avec le management, le label, ouais. La maison de disques, de comment t'accompagnes au mieux l'artiste. C'est du sur-mesure. Ouais. Tu posais la question tout à l'heure, mais finalement, c'est sur-mesure ouais. En fonction du projet et de l'artiste.
Et puis, il y a aussi, moi je suis pas toujours à l'inverse, quand on me dit, ah oh ouais, mais on peut peut-être faire sur X temps. Et des fois, je dis, bon, on va déjà faire 4.
Ah oui, c'est toi qui calme les ardeurs.
Oui, parce que c'est quand même un investissement, la promo. Et que quand on est au tout début, faut être quand même raisonnable sur cet investissement-là. De se dire, bah, par exemple, là, typiquement, le groupe Vantech, j'ai accompagné au Transmusical, Our Lights, c'est eux qui payent. Ils jouaient au Transmusical, mais il n'y a que ça. Un titre et les Transmusicales. Donc je n'allais pas dire alors que moi je savais pertinemment, c'est pour ça que je voulais les accompagner, que c'était juste un tout petit, qu'ils allaient sauter du plongeoir et que là la piscine elle était grande, c'est une grosse piscine olympique. J'aurais eu tout intérêt à leur dire c'était 18 mois. Un, ils n'avaient pas l'argent. Je pense pas, ou alors non, ils avaient pas l'argent. Et deux, qu'est-ce que je leur donnais après les Transmusicales? Par contre, quand le programmateur et la programmatrice des Vieilles Charrues sont à leur sortie de scène venus leur dire, au fait, j'espère que vous ne mariez pas vos sœurs le 12 juillet, parce que vous jouez aux Vieilles Charrues le 12 juillet, en descendant de la scène des Transmusicales. Alors moi, dans ma tête, ça a déroulé très 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 vite. Et là, je me suis dit, c'est jusqu'à quand mon contrat? 31 décembre. Donc là, il va falloir que je réussisse à mettre en place un maximum de trucs pour, en tout cas, envoyer la suite. Et ça nous laisse aussi le temps de réfléchir. Et donc voilà, mais ça n'a rien à voir avec Angèle, ni avec Pierre Demar, ni avec Euth, ni avec d'autres. Et
juste parce que ça peut intéresser des gens, tu as évoqué le portage salarial. Tu peux nous dire juste en quelques secondes en quoi ça consiste? Peut-être que des gens seront concernés parmi nos auditeurs.
En fait, les 5 premières années où j'ai commencé, j'étais en profession libérale. Et j'avais une aide à la création d'entreprise et j'avais été conseillée par une autre attachée de presse qui elle était en portage. En fait, moi, mon système administratif, c'est qu'en fait, c'est une société qui s'appelle Cadre en Mission qui signe mes devis que j'ai négociés moi-même. C'est moi qui fais la relation avec tous mes clients, donc je négocie mes prestations. Et cette société facture, vérifie la solvabilité des gens avec qui je vais collaborer, facture et convertit mes honoraires en salaire. Et en y incluant les charges sociales, les charges patronales et une partie de frais.
Donc, officiellement, tu es salarié de cette société.
Je suis salarié de Cadre en Mission et je suis même en CDI chez Cadre en Mission. Okay. Et j'ai une mutuelle de fou. Je m'en suis aperçue il n'y a pas très longtemps. Je n'avais jamais eu besoin, donc je n'avais pas fait attention. J'ai plein d'autres avantages sociaux. Tous les mois, je cotise pour une éventuelle rupture de mon contrat. Si je décidais d'arrêter de travailler, je capitalise pour mes indemnités de départ. Et j'ai un soutien administratif très fort. J'ai donc une RH qui s'occupe de moi. Je ne fais pas de recouvrement. Je n'appelle pas mes clients. Je n'envoie pas de facture. J'ai une petite appli qui fait que je fais des photos de mes frais et que ça va directement chez eux et que j'ai un remboursement tous les mois. Que mes clients payent ou pas, j'ai mon salaire tous les mois. Et un salaire que j'ai prédéfini moi-même, que je peux voir augmenter, que je peux m'accorder une petite prime. Alors donc tout est mon argent, hein, et eux ils me prennent un pourcentage.
Okay. Donc tu renonces quand même à une rentrée de revenus, mais parce que ça t'assure.
C'est la paix de l'esprit.
Moi je renonce à rien du tout.
Et s'ils prennent un pourcentage, etc.
Oui, mais franchement, il faut payer un comptable hein, tous les ans qu'on est. Moi je ne vais pas chez le comptable comme je suis allée pendant 5 ans avec des piles comme ça là, de trucs pointés qui me prenaient un temps fou, qui m'intéressaient pas du tout, où je pouvais pas téléphoner à des médias. Là non. Là, je dis, voilà, on a défini, c'était tant. Et si jamais il y avait accident, parce que, au moment du Covid, donc quand le confinement a été annoncé, moi, tout de suite, ma RH m'a contactée en me disant, vous pouvez prétendre au comment dire
une aide
non même pas l'aide
un chômage
le chômage partiel voilà. Et moi alors je ne l'ai pas fait parce que j'ai continué à, il se trouve que j'ai fait partie de celles et de ceux qui ont pu continuer à travailler mais en tout cas moi j'aurais pu arrêter de travailler et ne rien perdre. Moi j'ai cofondé avec d'autres le syndicat après des attachés de presse. Moi j'ai vu ce que c'était les tous les autres à part moi et justement Sophie Louvet, je cherchais son nom, qui était en portage, on était les deux seuls où on a fait c'est pas grave en fait. Tous les autres, il y a des filles, majorité de filles qui ont perdu 80% de leurs revenus et qui n'avaient aucune ressource possible. Donc moi je pour honnêtement pour le pourcentage parce que comme je suis chez eux depuis longtemps et que j'ai des revenus réguliers, j'ai su leur dire 1% de moins, 1% de moins, 1% de moins. Mais non, j'ai tout. Moi, quand je suis passée en portage, j'ai gagné plus d'argent, j'ai payé moins d'impôts qu'en profession libérale.
Toi, Anne-Sophie, t'es sur une indépendance libérale plus classique.
Alors moi, j'ai, on va dire que j'ai une entreprise. Moi, j'ai une SASU. Et à côté, j'ai la chance de pouvoir continuer à faire des séances de voix. Je suis intermittente du spectacle.
C'est vrai que j'ai pas précisé que tu faisais de la voix.
Donc, en fin de compte, je fais des documentaires à côté. Donc, en fin de compte, ce qui va rentrer dans ma boîte va sortir pour nourrir mes documentaires. Et j'ai de la chance jusqu'à quand je ne sais pas, mais d'être intermittente. Si on renégocie chaque année notre contrat, enfin on doit faire un nombre d'heures et si on le fait pas, on l'est plus. Et je me pencherai vers le portage si effectivement je crois que j'ai moins de voilà. Donc c'est encore voilà différent. J'incumule autorisé parce que je n'ai pas de revenus de ma boîte, on va dire, puisque c'est un montage. Ouais.
Question bête. On parle depuis tout à l'heure du revenu, mais qui vous paie? C'est l'artiste lui-même, c'est son label, c'est qui fait appel à vos services d'une certaine manière sur la facture.
Ça dépend, te sollicite au final. Hein.
Mais label, en général, label, qui ça peut être quoi?
Bah ça, le label, l'artiste, ça dépend l'entourage. On en revient toujours et encore à l'entourage.
Ça dépend pourquoi on est contacté.
Ouais.
Okay. Quand on est contacté, Mathieu Tessier, qui est maintenant le patron de Warner Chappell Édition, m'envoie les premiers titres d'Angèle où il y a que lui qui a signé, bah c'est lui qui paye, parce que il m'appelle moi, il appelle Flo Muset, il appelle Nico Vandy qui dit je vais faire une team de promo pour cette jeune belge qui avait que la loi de Murphy et il nous dispatche le travail et il nous paye. Simon Audet m'appelle pour Suzanne, il m'appelle pour Suzanne en disant oui mais le disque va sortir en simultané donc on va partager. Simon sait que je veux faire Pierre Demar et qu'on dit ok, c'est donc Simon Audet W Spectacle Tourneur plus le label plus l'édition. Mais parce que c'est long, parce que c'est pour solidifier poser les premières bases d'une carte. Donc ça peut être Our Light, c'est eux qui payent. Je ne sais pas comment ils me payent, mais c'est eux qui payent.
Non, mais l'intérêt de la recherche dessus, c'est là.
Exactement. Ouais. Je pense que ce sont leurs économies ou des quelques dates qu'ils ont déjà faites.
Ça dépend du projet, quoi.
Et à la fin de ma mission avec Angèle, c'est Angèle qui payait.
Peut-être pour rentrer dans cette deuxième partie, plus sur le rapport aux médias. Déjà, vous allez solliciter les médias. Bon, c'est votre métier, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a quand même à séparer l'émission quand, par exemple, on est sur une tournée, quand on est sur une sortie d'album? Est-ce que c'est pas exactement le même métier quand même? Il y a des phases un peu différentes dans votre métier où globalement, on va s'adresser aux médias de la même manière.
Tu t'adresses à eux avec le projet. Enfin, tu dis, je vous invite à une maroquinerie, je vous invite à une cigale, je vous parle d'une sortie d'EP ou voilà, venez à la date au Flow à Lille. Enfin, c'est du sur-mesure, pareil, en fonction du média et du projet. Quand tu t'occupes d'une tournée, tu vas réfléchir à quel média à Marseille peut relayer au mieux la date à l'Espace Julien. Enfin, tu vois, elle a une connaissance des médias locaux que moi j'ai pas forcément, que tu vas construire en amont parce qu'elle a ses dates de tournée. Et tu vas choisir une pertinence. Là, je vais faire France Bleu. Là, voilà, c'est.
Oui, parce que ça, c'est effectivement, tu fais bien de le préciser. Ça paraît logique, mais lorsqu'on est sur une tournée, la résonance locale a une importance énorme parce que c'est là où les gens vont se renseigner pour dire ah tiens, il y a ça qui passe à côté de chez moi. Et ça, on le fait peut-être moins quand on travaille avec un artiste en développement, ou ça reste important quand même, la presse régionale globalement?
Tout est important, c'est vital, c'est la base même, je dirais. Bah, bien sûr, c'est.
Moi, je pense que
Paris,
c'est
ça, les copains.
Bah, je pense qu'il n'y a même pas.
Il faut lui rappeler ça de temps en temps.
Il n'y a pas que Paris, quoi. Tu vois, la région, et puis elle est. Enfin, puis t'as des médias incroyables. Moi, j'adore le traitement d'informations par des journalistes qui sont pas ici, dans ce qui va être des radios campus, dans des. Tu vois, t'as mille. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de petits médias.
Mmh. Les 10 plus grosses presses régionales, c'est 1 500 000 exemplaires par jour. Mmh. L'hebdomadaire Diverto, qui touche 44 presses régionales, donc qui est un magazine. De programmes télé, plateformes et magazines de divertissement culturel, et inséré toutes les semaines dans 44 médias en région, c'est 3 millions quoi. Mmh. 3 millions d'exemplaires. Faire la couve de Diverto, c'est être dans 3 millions de journaux, donc ça veut dire qu'il y a 3 millions de personnes qui l'achètent, et c'est un foyer.
Oui, après plusieurs.
Un
le
foyer. Ouais. Être dans la dernière page de Ouest France, qui touche 11 départements, donc de la Normandie jusqu'à la Vendée, en allant jusqu'à la Sarthe, donc le Maine-et-Loire. Hein. La Sarthe, le Maine-et-Loire, c'est 740 000 exemplaires tous les jours. Mmh. Donc, je ne ferai pas de comparaison avec certains hebdomadaires, mais on est loin, quoi.
Bien sûr. Mmh.
Moi, je dis toujours, vaut mieux vu les esthétiques qu'on développe avec des gens qui partent sur la route, donc qui tournent, mieux vaut ça, enfin, 4 lignes dans Ouest France en page culture, que des fois une seule ligne dans un quotidien national, hein, ou même un article.
Un comme ça,
ouais. Non, je parle de quotidien national.
Ah, quotidien, oui.
Alors Télérama fait vraiment exception, oui, parce que le tirage est énorme. Ouais. Et le lectorat extrêmement captif.
La réputation est vraiment chouette. Quoi.
Ah oui, enfin,
tu travailles avec des gens,
sûr,
une qualité aussi.
Mais c'est pour ça que le lectorat est très captif.
T'as des questions, Daz, justement, sur ce rapport aux médias. Alors déjà, j'imagine qu'on peut un peu diviser les choses, parce qu'on ne travaille pas de la même manière avec les télés, avec les radios, avec
oui,
le web.
Oui, déjà, oui. Oui, et puis surtout, enfin, je pensais pas que la presse traditionnelle était encore aussi aussi forte en fait.
Presse écrite notamment. C'est vrai qu'on a tendance à dire globalement que la presse écrite a de plus en plus de mal à survivre.
Elle en finit pas de mourir, mais
ouais,
en fait
le modèle économique est difficile, reste... etc. Mais peut-être pas la PQR comme ça énorme.
Moi, je me souviens, sur Rappeuse en liberté, on a eu sur la première édition, on a eu un très bel article dans Le Monde. Et j'avais acheté plusieurs exemplaires pour le donner à nos trois finalistes, enfin, une des trois qui avait pas acheté. Elle savait pas, elle connaissait pas Le Monde parce que, enfin, parce que c'est une jeune femme, elle connaissait, mais elle
l'avait jamais lu, quoi.
Elle l'avait jamais lu, jamais acheté. Ouais. Elle était très impressionnée pour le peu, tu vois, d'avoir ce joli portrait, de se retrouver en photo. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas, elle n'avait jamais acheté Le Monde.
Ouais.
Tu vois, donc ça,
mais ça avait quand même une. Elle l'avait jamais acheté, mais ça avait quand même une notion de prestige.
Oui, de l'impact. Enfin, c'est ses parents. Enfin, tu vois, le premier truc, c'est, alors mes parents.
Ouais,
mes parents,
c'est ça.
Tu vois, de.
Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un média ne concerne pas que la cible qu'on espère viser. Et c'est pas parce qu'on travaille avec des gens qui ont moins de 25 ans qui ont une.
Oui, ils s'adressent pas qu'à des gens qui ont moins de 25 ans, en fait.
Déjà, si, ils peuvent très bien s'adresser à des gens de moins de 25 ans. Mais cette terre n'est pas peuplée que de gens de moins de 25 ans. Ces gens de moins de 25 ans ont des fois des parents, ont des fois des grands-parents, ont des amis de parents, ont un cercle social, ont des profs, ont des charcutiers, ont des plein de choses. Et la société est faite de gens qui se passent des éléments. Mmh. Et les éléments ne se passent pas que par TikTok, que par Insta, que par Snapchat, les gens se parlent, les gens lisent et les gens ont tous des moyens complètement différents de s'informer. Ouais. Moi, ce que je demande toujours aux artistes avec lesquels je travaille, quand on commence le premier rendez-vous où on envisage de collaborer, c'est quels sont les trois médias dans lesquels tu aimerais être, et l'autre chose, c'est comment tu découvres la musique. Et c'est toujours très surprenant parce que il y a très souvent les mêmes médias qui sont cités
qui leur sortent,
et qui sont pas pas toujours très prescripteur, enfin, ouais, pas toujours déclencheur derrière, mais des fois prescripteur.
Tu peux nous les citer? Les médias qui reviennent
ça, mais ça dépend des esthétiques aussi.
Ouais. Tu as dit quand même qu'il y en a trois qui reviennent beaucoup.
Les trois qui viennent presque tout le temps, qu'est-ce que soit l'esthétique, c'est Télérama. Mmh. Mais parce que, voilà. Ça peut être très souvent les Inrock. Mmh. Et Libération. Mmh. Des gens qui, comme elle dit, ne les ont jamais lus, par
contre. C'est une question que tu peux poser aux artistes avec qui tu travailles.
Oui, ça m'intéresse. Je veux dire, mais c'est quoi tes target? T'aimerais être où?
Qu'est-ce qui ressort, en général?
Voilà, tu sais, l'an dernier, Rappeuse en liberté a coproduit avec Brut un documentaire qui était magnifique sur le dispositif. Mm-hmm. Et tu vois, ça correspondait, c'est Brut, ça correspond tout à fait, comme on dit, c'est des médias qui parlent. Voilà. T'as différents médias.
Dans le web, c'est ça, c'est Brut et Combini. Mais quelle que soit l'esthétique, à qui on dit,
très chouette. Ouais. Et pour autant, c'était très contente l'année précédente d'être dans le monde aussi.
Ouais. Ouais. Oui, mais pour d'autres raisons.
C'est une offre complémentaire, on va dire. Mais c'est vrai que les trois, Libération, Télérama,
ça t'installe. Il y a un côté un peu sérieux.
À ton programmateur, ça va parler au tourneur, ça va parler...
J'ai essayé d'expliquer à mes parents ce que je faisais, ils n'ont jamais compris. Ouais. On a eu des pages dans Télérama, ils ont compris tout de suite, tu vois. Et tu dis, ça faisait 10 ans que je le faisais, tu vois. Il a fallu qu'on soit là, ou que la télé vienne voir pour que d'un seul coup...
Ça légitime, ça explique, là t'existes.
C'est fou, en fait, de se dire...
Dans un magazine qui parle, dans un hebdo, dans un quotidien qui va parler de culture. Donc ça devient sérieux.
Principe que comme on a imprimé du papier quand même pour parler de ce que tu fais, ça veut dire que quelque part là ça
c'est
vaut
un peu
le
intéressant
coup,
ce que tu fais. Ouais. J'avais jamais acheté ma vie Télérama, j'ai eu pareil un petit encart dedans, j'en ai acheté 5 exemplaires.
Les Inrock aussi.
C'est vrai qu'il y a une forme de satisfaction, mais est-ce que pour vous ce côté plus prestige, c'est un truc que vous prenez en compte? C'est-à-dire que vous n'allez pas seulement penser à l'efficacité en termes de gens touchés, de l'efficacité pour développer la carrière, ramener des gens à un concert, par exemple, des choses comme ça, mais aussi se dire, c'est important pour l'image de l'artiste, pour lui faire plaisir aussi, de toucher certains trucs.
Non, mais on parle pas de prestige, là, on parle de presse de qualité, on parle de gens qui ont travaillé, qui ont écouté de la musique, qui font des articles, qui sont allés au fond de quelque chose, quand Zao de Sagazan, elle fait la couve de Télérama, mais les journalistes sont allés à Saint-Nazaire, ont vu ce que c'était Saint-Nazaire, ont parlé avec elle. Enfin, c'est pas que du prestige. Mmh. C'est aussi être face à quelqu'un avec qui l'artiste peut échanger, se livrer, débattre.
S'ils sont tous sensibles à ça, les artistes?
C'est de l'intérêt pour leur projet, parle. C'est ton bébé, ton projet. Et t'as quelqu'un en face de toi qui reprend tes lyrics et qui dit, alors quand t'as dit ça, et le choix de tel producteur. On était à France Inter il y a pas longtemps avec Rossé, Laurent Goumard, mais comment il travaille, Marine Guibault, tellement bien. Ouais. Laurent Goumard, je le regardais, je me disais, mais alors quel journaliste. Et Marion, pareil, tu sais, où il allait parler des interludes dans l'album de Rossé, qui séquençait l'album en deux parties. Mais c'est tellement ça, et je me suis dit, waouh.
Mais c'est suite aussi, c'est suite au dossier de presse ou que vous avez envoyé?
Non, de son écoute, de sa vision. Télérama, pareil, on a eu un article magnifique. Erwan, qui a travaillé aussi sur Bro, où je pense à Léa, je pense à ces gens qui vraiment étudient, écoutent, ont une vraie réflexion. Des artistes.
Ils font leur taf.
Journalistes et des artistes, tu sais, ils ont cette subtilité, cette vision.
Pour autant, on a reçu dans cette émission, on a fait des épisodes sur le journalisme musical, notamment la presse écrite, etc. Et globalement, ce qui ressortait du discours des journalistes, on a reçu Brice Miclet, on a des gens qui bossent pour Libé, pour Trax, etc. Feu Trax.
Combiné aussi,
Combiné aussi avec
Spark. Feu Trax, mais Spark.
C'est vrai qu'il y a Spark. Absolument. Je pensais à Trax, tu sais, le magazine. Arte, Trax n'existe plus, mais il y a Spark, effectivement, qu'il faut aller soutenir parce que ils essaient de relancer ça de manière vigoureuse. Ces journalistes nous disaient quand même globalement, que c'est difficile parfois de solliciter aujourd'hui les artistes, qu'ils ont peut-être de moins en moins envie de s'exprimer. Vous nous dites, les artistes sont très contents quand on s'intéresse à eux. Ce qui ressort aussi de la part de beaucoup de journalistes, c'est, ils ont pas envie de parler dans les médias aujourd'hui, les artistes.
Ça dépend à qui.
En fait, ce qu'on avait cru comprendre, c'est que...
C'est toujours, ça dépend, tu sais, t'as pas de...
Ça
dépend
mais une tendance.
Ça dépend. On parlait à quelqu'un qui travaille. Il y a des journalistes pour lesquels on n'aurait jamais de problème à obtenir les interviews de la part des artistes.
Donc c'est ça qui ressortait, c'est que les artistes aussi ils aimaient pas trop forcément être mis un petit peu en, pas en difficulté, mais en tout cas
mais on est
prendre
jamais en
des risques.
Non, mais on n'est jamais en difficulté par, face à quelqu'un qui travaille. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a
ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir une couverture médiatique qui finalement, tu vois, un mauvais papier, par exemple, ça peut arriver.
Ah, mais c'est pas de ça dont je parle. Je parle, il y a des artistes qui, le travail d'un artiste, c'est de faire de l'art. C'est pas non plus, il n'y a pas écrit dans le contrat que c'est obligé de faire la promotion.
Oui, ok. Ouais.
Un journaliste, s'il faisait son travail, il devrait se contenter de faire son travail.
De la proposition artistique.
Ouais, forcément, faire une interview, c'est aussi un travail.
Non, mais je veux dire, d'en parler. Après, si on fait une interview, il faut travailler aussi. Et si demander à un artiste, faire une interview, c'est demander à un artiste, ah oui, alors tu es bien de cette ville, et pourquoi tu t'appelles comme ça? Et repiquer tout ce qui s'est déjà fait, bah, je comprends qu'il y a des artistes qui n'ont pas envie, en fait.
Oui, ça, bien sûr.
Mais que c'est marrant, parce que je voulais, quand je disais, il y a des artistes qui sont toujours OK. Enfin, il y a, pour certains journalistes, c'est toujours OK. Généralement, les journalistes pour qui c'est toujours OK, l'interview, c'est lié aux médias. Mais aux médias, parce qu'il est de qualité, parce que les journalistes qui y travaillent font leur travail. Et pour si, c'est jamais un problème.
J'entends ce que vous nous dites, mais on peut pas ignorer quand même qu'il y a un mouvement de fond, notamment à travers les réseaux sociaux, le web, etc., qui fait que quand on défend un projet artistique, il y a aussi une forme de maîtrise à travers les réseaux qui fait que parfois on peut même se passer de relais médiatiques historiques. Vous êtes d'accord avec quand même ce constat ?
Ça dépend du style musical, je dirais.
Pas s'en passer intégralement, évidemment, et puis ça dépend de quelle est l'ambition, quel type de projet, on est d'accord, mais que globalement, quand même, de plus
PNL,
en plus,
par exemple,
il y a des alternatives possibles.
Aucune interview.
Mais c'est quand même une exception, ce dont tu parles.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça crée un précédent.
Oui, mais ils n'acceptent aucune interview, mais ils sont pas du tout contre que des attachés de presse envoient leur musique à des journalistes et aillent se battre pour eux.
Ça, c'est très bien qu'on en parle, justement.
Okay. Parce que si on parle de leur musique, c'est parce que des gens envoyaient aussi leur musique. Ils acceptent pas les interviews, mais il y a des
sous-marins aussi comme ça.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une promotion qui se fait autour du projet.
Vous connaissez un seul artiste qui a une notoriété à la hauteur de PNL et qui n'a pas d'attaché de presse derrière?
Non, ça n'existe pas, je pense.
Non, voilà. Non, mais c'est vrai que non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, en fait, ça peut même jouer contre le métier d'attaché de presse, le fait de faire le truc en sous-marin pour PNL, parce que moi, en tant que public, je suis persuadé que ces mecs-là, en fait, ils ont aucune équipe promo, rien, tu vois, puisqu'ils font pas d'interview, donc en fait, tu te dis. Dans la tête des gens, notamment les plus jeunes, tu vois, qui découvrent un peu le système médiatique et tout, ils disent en fait, les attachés de presse, ça sert à rien, tu vois, c'est pas la peine.
Ils essayent et ils se rendent compte que sans attaché de presse, ça marche pas, et ils nous appellent.
Ça, c'est un truc que j'ai souvent entendu. T'as bien fait de citer PNL.
C'est vrai.
C'est que les jeunes artistes d'aujourd'hui,
Ils se disent c'est pas la peine.
C'est leur modèle, c'est de dire, de toute façon, la pratique PNL.
Ça crée un précédent. Ça crée un précédent parce que effectivement, il y a pas beaucoup de groupes qu'on fait comme PNL, sauf que depuis que PNL a fait. Il y a beaucoup de groupes qui se disent, on pourrait faire comme PNL.
Mais que PNL n'a pas fait sans attaché.
C'est ça. Donc là,
je ne sais pas, effectivement. Et que, vu de l'extérieur,
t'as l'impression que,
Ils font tout seul.
Mais est-ce que vous avez déjà demandé autour de vous, c'est quoi attaché de presse? La plupart des gens, quand on demande ce que je fais, pensent que je suis journaliste.
Ah ouais, d'accord, ok.
Parce qu'ils entendent presse, ils n'entendent pas attaché de, entendent presse.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant, il y a quand même une partie rédactionnelle, j'imagine, dans votre travail, quand même, un minimum.
Alors, moi, je suis pas de cette équipe-là, tellement lente que moi, j'écris pas. Moi, il faut qu'on me donne tout écrit, déjà.
Mais ça peut rentrer dans les compétences de l'attaché de presse.
Le dossier de presse,
le dossier,
les
CP.
Tu vois, typiquement, t'as des histoires, t'écoutes l'artiste et t'écris aussi une histoire. Il y a des choses que tu vas mettre en avant, qu'elle l'artiste penserait pas forcément, et qui seront ensuite reprises parce que tu connais l'appétence de certains médias pour plus cette histoire-là.
Moi, il faut qu'on m'ait écrit le truc, et par contre, je suis très forte à faire la synthèse.
Je demande déjà des choses existantes, tu vois, des éléments. T'arrives pas sans rien.
Et ça arrive justement que au moment où vous rentrez avec l'artiste pour collaborer, rien du tout, et que du coup il faille booker des séances photos, bricoler.
Nous on n'est pas là pour booker, mais si t'arrives, tu vas expliquer en fin de compte tu vas lui dire moi j'ai besoin de tel et tel élément, est-ce que t'as déjà pensé à faire des photos, parce qu'on va avoir besoin de photos de presse, est-ce que sur ton EP précédent tu as fait un dossier de presse, tu as fait une revue de presse, parce que sur ce projet que tu me présentes, j'aimerais bien savoir qui est le producteur, où est-ce que t'as enregistré, quelles étaient c'était ce qui va s'appeler un dossier de presse. Ouais. Tu vas demander quelques, s'il connaît pas, bah oui, nous on va donner du réseau, on va dire, bah, tiens, on connaît tel photographe, ou, évidemment. Mais c'est, on travaille avec des gens qui ont déjà à peu près tout si ce n'est qu'on les guide un peu pour certains, pour on liste des éléments qu'on demande à avoir et autres,
la nouvelle génération quand même a un ami qui s'appelle Google et puis on peut taper qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi un kit média, non mais ça, ouais. Je connais très très peu de groupes d'artistes qui n'ont pas conscience, n'est pas conscience qu'il faut au moins une vignette pour mettre sur une plateforme quand son titre est et doit être disponible, et que il y a aucun artiste qui n'a justement pas de réseaux sociaux, donc qui de lui-même, même maintenant, même enfant ou ado, puisque la génération avec laquelle on travaille sont vraiment des vrais digital natifs pour le coup, ont de toute façon grandi avec un smartphone dans les mains, donc savent très bien déjà se mettre en scène, déjà communiquer avec l'extérieur, donc se doutent bien que sur leur projet extérieur, sur leur projet artistique, ils vont dire, il faut une photo, il faut un texte de présentation.
Ils produisent leur contenu pour la plupart.
Ouais, mais justement, mais alors
ils vont faire des clips incroyables avec leurs copains. Ouais. Je pense à Fleur Copain ou je pense à Sainte-Victoire, travaille avec des gens mais super doués. L'image, elle est incroyable. Ouais. Alors que on les connaissait pas, tu vois. Et leur image, elle est très très belle. Ouais. Ils sont au courant de quel photographe dans leurs copains fera les plus jolies photos. Et ils sont rompus à cet exercice-là aussi. Hein.
Alors la question que j'ai, c'est justement, est-ce que c'est votre rôle aussi parfois? Par exemple, vous accompagnez un artiste, par exemple Rof, qui a une certaine façon de gérer les réseaux sociaux, tu vois, notamment Twitter. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes la personne qui va aller chercher le téléphone dans sa main et lui dire arrête tout de suite de tweeter tout seul parce que tu fais n'importe quoi? Est-ce que c'est votre rôle aussi de dire là, tu devrais arrêter de le faire toi-même, donne-nous le téléphone, donne-nous les comptes, on va se démerder parce que c'est contre-productif.
Filer, en tout cas, un community manager.
Kousni, il a vraiment cette façon de gérer.
Oui, mais justement, ça peut lui porter préjudice, tu vois, sur certains trucs.
Et puis au-delà de Rof, globalement, est-ce
j'ai pris
que c'est
Rof parce que c'est vraiment
tu peux conseiller à des gens, mais c'est ton projet, c'est toi qui l'incarne, c'est tes particularités, enfin ce qui va faire tes différences par rapport à un autre, c'est ce que tu es toi et comment tu le défends, et c'est tout ce qui va être
Oui, mais je veux dire, il y a des choses aussi où, à un moment donné, même si l'artiste.
Mieux vaut pas se différencier.
Ouais, non, mais parce que, notamment, je parle de Rof, justement, parce que personnellement, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, mais je sais aussi que, sur les réseaux, des fois. Il ferait mieux de pas utiliser son smartphone, tu vois. Donc, je me dis, et en fait, quand je vois des saillies comme ça d'artistes, moi, je les vois passer sur Twitter, parce que je suis beaucoup sur Twitter, et je me dis, waouh! Est-ce que là, il y a quelqu'un qui l'a conseillé? Tu vois, on se pose la question. Des fois, on se dit, mais est-ce qu'il a entouré cet artiste-là pour sortir des dingueries comme ça?
Ça veut dire qu'un artiste entouré devrait être complètement lisse
et édulcoré.
Justement, moi, je suis 100% d'accord avec votre vision. Mais il y a des fois où on a beau être un peu rugueux et un peu brut de décoffrage, il y a des trucs, tu fais, est-ce que là, c'est une bonne idée de faire ça, tu vois, de sortir ce truc-là? Parce que justement, en tant qu'artiste, j'ai une résonance.
Absolument,
j'ai une audience,
responsabilité.
J'ai une responsabilité par rapport à ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui me suivent, et que potentiellement, si je dis une dinguerie, ça va peut-être engrainer des petits derrière.
Il a le droit de penser ce qu'il veut de son côté, mais c'est le dire publiquement.
Oui, mais ça s'appelle une éducation générale, ça n'est pas lié à l'artiste.
Non, mais c'est vrai que.
Est-ce que vous pouvez intervenir dans ce cadre-là, juste pour conseiller, etc., genre de choses?
Ouais, même de manière, tu devrais pas le faire, tu vois, juste.
C'est bizarre, nous on travaille pas avec des artistes comme ça, en fait.
J'ai jamais eu ce souci-là en disant non, mais ne dis pas ça, mais c'est fou.
C'est souvent, en fait.
Justement, j'ai dit, c'est très très bien ce que t'as dit, waouh.
Non, mais souvent, en fait, c'est vrai que ce qui se passe quand on voit comme ça des crashs intergalactiques sur les réseaux, souvent, dans les commentaires, on fait, oh putain, les attachés de presse là, ils doivent être en train d'essayer de rattraper la sauce, c'est compliqué quand même.
Mais bien sûr, parce que c'est toujours cité, parce qu'on sait très, tout le monde sait, alors pour le coup, même sans savoir ce que c'est attaché de presse, savent très bien que c'est quelqu'un qui va ramasser les morceaux. Ouais. Mais je suis désolée, c'est très puéril. Mmh. C'est comme si c'était des enfants ou la mère, généralement, ou le père, ramasser les conneries, quoi.
Ouais.
Et c'est la vue de la personne qui gère n'a rien de professionnel dans ce « ouah, les attachés de presse ». C'est comme on dirait « ouah, putain, les darons, quoi
». Oui,
c'est
du coup...
un truc qui est tellement infantile, quoi, de se dire « je fais de la merde, les autres géreront bien, ramasseront les trucs ». Et les gens en face, en fait, voient ça. Nous, évidemment, parce que nous, ça va rendre pas autant compliqué la prise de parole, c'est qu'il va falloir gérer le retour de la prise de parole. Et c'est là où les gens se disent, ou les attachés de presse, parce qu'ils doivent se dire, oh, les filles, les filles ou les gars, on doit avoir les téléphones qui chauffent, bah, parce qu'il va y avoir des questions et tout. Mais après, moi, il y a un truc, enfin, moi, ça m'est pas arrivé, mais.
Vous disiez justement que maintenant, les artistes que vous accompagnez sont des digital natives, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec Internet, donc ils ont eu une vie avant d'être artistes. Et on voit, notamment sur certains artistes qui pètent, que parfois, quand on repasse sur leur compte Twitter, en fait, il a été complètement purgé de tout message potentiellement. Alors que, tu vois, t'as des artistes qui sont sur Internet à 13-14 ans, ils disent n'importe quoi, c'est normal, c'est des enfants, tu vois. Sauf que bah, quand ils sont artistes à 25 ans derrière, il y a des gens qui vont aller diguer des anciens tweets, des anciens trucs. Donc,
alors,
est-ce que,
moi, je suis désolée, mais non, c'est pas... Ils disent n'importe quoi, c'est des enfants. Et ok, quel enfant est debout sur une table et hurle au milieu de la rue n'importe quelle connerie?
Il y en a.
Moins que sur les réseaux. Moins que sur les réseaux, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire... Tu déconnes, en fait. Il faut arrêter d'estimer aussi qu'à 13-14 ans, on a le droit de faire parce qu'on est des enfants ou moins.
Non, c'est pas ce que je dis.
Non, c'est pas
ce que je dis.
On se rajoute un tout petit peu plus.
Je pense qu'on sera pareil adulte. Hein,
Non. Ce que je dis, c'est que moi, par exemple, je trouve ça terriblement injuste de prendre une personne qui a 27-28 ans et de lui remettre sous le nez des tweets qu'elle a balancés quand elle en avait 14, parce qu'entre-temps, t'as grandi, t'as évolué, et de la tenir comptable de ces tweets-là, comme si elle les avait postés la veille, tu vois. Et je sais que du coup, dans l'entourage des artistes, il y a une industrie du nettoyage de comptes, des comptes sociaux, parce qu'ils savent très bien que là, le truc que t'as dit sur la Palestine quand t'avais 13 ans, il est pas impossible que ça foute la merde quand on aura 26-27 et que t'essaieras de passer à la télé, tu vois, parce qu'il y aura des gens qui vont aller te chercher là-dessus.
Oui, mais ça veut dire qu'on est très très mal éduqués sur le net, qui n'oublie rien.
Ah bah bien sûr, 100%. On est mal éduqué sur le net.
Mais maintenant on le sait, un ado de 12 ans qui poste n'importe quoi, s'il ne sait pas que dans 25 ans, bah... on y ressort...
Non, parce qu'il y a deux trucs. Il y a le fait que le net n'oublie pas, ok. Il y a aussi des gens, notamment quand les artistes sont racisés, qui vont se faire un plaisir d'aller chercher ces tweets-là pour expliquer que, regardez, regardez la racaille que c'était quand il était jeune, regardez ce qu'il disait, c'est du racisme anti-blanc, et nanana, on a vu des gens.
On lui répond, ça n'existe pas, le racisme anti-blanc. On reprend
100% d'accord, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont un agenda qui est potentiellement de nuire aussi à l'artiste. Et quand ils ont pas de prise sur ce que l'artiste propose, ils vont aller diguer, ils vont aller chercher, tu vois. Donc en fait, pour moi, ça, c'est, tu vois, on disait que les médias changent, les méthodes changent, les habitudes changent, et notamment justement l'historique sur les réseaux sociaux, c'est un sujet pour de vrai,
bien
tu
sûr.
Vois.
Bien sûr.
Notamment dans certains courants musicaux qui sont peut-être un peu plus justement à même de balancer des dingueries à droite à gauche, tu vois.
Tu parles du rap, c'est ça.
Voilà, Freeze Corleone, je le vois passer, j'y ai. Là aussi, les attachés de presse doivent se dire, putain, pourquoi t'as dit ça, tu vois.
Leur tirer son portable. Non, mais enfin moi ça m'est jamais arrivé, donc de ce fait, je suis mais j'entends ce que tu me dis. Mais ça ne m'est jamais arrivé.
Vous avez pas, vous,
avec des artistes qui disent des
dingueries comme
des
ça.
Trucs incroyables.
Oh, moi, la super grosse dinguerie, c'est Pierre Demar qui m'a pris mon portable hier et qui a fait une photo et qui a mis il y a trop de Zao sur cette story. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Et du coup, Julien Granel a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et Nuit Incolore a dit, je ne connais pas ces deux gars, mais par contre, ce que je sais, c'est que Patricia, elle a eu toutes mes stories. C'est donc, vrai. C'est le max de la dinguerie que je suis rendue.
C'est vrai qu'on, c'est limite tout ça, quand même. Pour faire le lien, peut-être, parce qu'on parle du web beaucoup depuis tout à l'heure, on a parlé des acteurs historiques que sont les radios, la presse écrite, on n'a pas trop parlé de télé, c'est vrai qu'on pourrait peut-être en parler un peu de télé, mais il y a quand même un acteur essentiel qui sont aujourd'hui les plateformes de streaming et qui participent à la résonance d'un artiste. Vous parliez de playlists en radio, il y a les playlists aussi des plateformes de streaming. Est-ce que c'est des interlocuteurs que vous avez en tant qu'attaché de presse?
Est-ce que c'est des gens qui existent? Est-ce que c'est l'algorithme?
Comment ça se passe?
Est-ce qu'il a un numéro, l'algorithme? On peut l'appeler?
Est-ce que j'ai un petit titre là, placé chez Spotify? Non, mais on a quelques interlocuteurs, bien sûr, mais généralement, ça reste le distributeur qui va s'occuper de rentrer en playlist les singles de l'artiste. Et après, tout le monde connaît quelques personnes qui travaillent Deezer, Apple ou autre, quoi, évidemment. Mais nous, ça va plus être un travail, même si ça a évolué qu'aujourd'hui aussi, on connaît certaines personnes qui playlistent et on peut leur dire, est-ce que tu as écouté? Mais c'est pas nous qui pitchons, ça s'appelle pitcher. C'est le distributeur, en fin de compte, qui fait ça auprès des plateformes. Mais après, tu peux avoir des copains qui ont des playlists sympathiques et leur dire, voilà, est-ce que tu as bien vu ce qui est sorti ou pas? Voilà. J'ai pas de nom à te donner, non. Je te vois me regarder, je te vois, ça suffit.
Non, non, mais je me demandais justement si...
Juste Patricia, je crois qu'elle voulait réagir là-dessus.
Il faut pas oublier aussi que les gens qui ont intégré les plateformes sont pour partie des gens qui venaient du disque. Mm-hmm. Et qui venaient d'autres médias aussi. Donc, il y avait déjà... Quand on travaille depuis plus longtemps, il y a forcément des gens qui ont changé de place de par leur expertise de marketing ou d'écoute ou de direction artistique ou de programmation dans des médias dits traditionnels. Donc il y avait déjà ça. Après, le renouvellement s'est fait différemment et les plateformes grossissant, il y a eu des recrutements de gens qui dont c'était pas forcément les premiers bonniers, mais en tout cas...
Qui se retrouvent là-bas aussi.
Qui se retrouvent comme il serait rentré en radio il y a 10 ans et qui se retrouvent en plateforme.
C'est une continuité d'un métier pour beaucoup.
En fait, ça reste le même...
Après, je pense qu'il y a eu tout une forme de méconnaissance et de non-anticipation de l'arrivée des plateformes à part Sofian Fanen, hein, qui est quand même, je pense que c'est quand même notre Cassandre, on devrait quand même finir par l'écouter, ce gars.
On l'a reçu, je sais,
qui quand même nous a quand même dit, attention, voilà les plateformes, et que tout le monde était là, donc on devrait vraiment écouter ce qu'il dit, et le lire, parce que c'est fort, fort intéressant, ce qu'il écrit, et que son média est incroyable.
Les jours.
On l'a vu arriver, hein, le truc quand même. Et on s'en est pas, il y a pas beaucoup de gens qui s'en sont préoccupés. Mmh. Par contre, ceux qui s'en sont préoccupés connaissent les 06, les gens des plateformes.
Oui. Ouais.
Non, mais il y a ça. Et après, c'est construit une nouvelle façon de travailler par un nouveau média. Parce que c'était un nouveau média. Ou même, c'est ce qu'on se disait toutes les deux à propos de Le Move et de Move. Mmh. Soit comme l'une comme l'autre. Parce qu'on connaissait les gens du média et que le média a bougé selon le travail qu'on faisait, les artistes qu'on accompagnait, on a plus de contacts ou moins, ou plus, mais en restant à l'écoute, on garde un lien. Et là, c'était pareil. Dans les plateformes, il y a des gens avec qui j'ai travaillé dans des maisons de disques. Donc forcément, avec cela, ça fait une passerelle. Mais c'est pas pour ça que je connais tous les éditeurs et les éditrices des plateformes.
Puis en plus, il y a moult playlists quoi, maintenant. Donc,
oui,
des
ça.
Playlists avec des curations, on connaît le curateur, des playlists de référence, mais t'as aussi énormément de playlists. Tu pourrais passer ta journée à diguer sur 1000 playlists. Quoi.
Et puis après, il faut se dire qu'aussi, les plateformes sont impliquées, dans le cas, par exemple, de Spotify, très, très impliquées sur l'annuaire majeur pour la valorisation des femmes dans l'industrie avec, justement, leur programme Equal.
Donc, c'est un annuaire qui s'appelle Majeur, je précise.
Un annuaire qui s'appelle Majeur qui concerne les femmes, les personnes non-binaires et trans de l'industrie de la musique. Et donc cet annuaire est en partenariat avec Spotify et dans le cadre des journées Equal où Spotify met en avant la création féminine, il y a des journées où l'équipe de Majeur est invitée aussi pour présenter l'annuaire et pour montrer à ces jeunes femmes ce qu'est un réseau. Et ils sont donc ils développent aussi les plateformes. Je cite cet exemple-là parce que je travaille avec Majeur, mais les plateformes développent aussi autour de leurs actions propres, qu'est la playlist, des actions de valorisation comme YouTube.
J'allais les citer comme YouTube. Ils font des super masterclass. T'as artiste, inscris-toi au masterclass YouTube où ils vont t'expliquer ta gestion toi-même en tant qu'artiste, comment tu peux gérer ta visibilité.
Et justement, c'est une question que j'allais poser en complément, c'est que donc on parle des médias qui changent, des plateformes qui sont importantes et Est-ce que vous, vous prenez en compte aussi l'influence, c'est-à-dire les prescripteurs qui sont des youtubeurs, des tiktokers, des instagrammeurs qui peuvent potentiellement aider à la popularité d'un artiste?
Bah on en connaît, ça fait partie de l'écosystème. Et mais après, comme tu parlais tout à l'heure des agents, t'as des gens spécialisés dans les tiktokers, tu vois. Après, on va expliquer aussi à un artiste quand il est émergent, par exemple, l'importance de YouTube et lui dire de vraiment faire attention à sa chaîne. Il y a 1000 outils aujourd'hui, il y a le YouTube Studio, lui expliquer le convaincre, le mettre sur la mailing list pour les prochaines masterclass YouTube, parce que vraiment c'est très bien fait. Alors là, les gens chez eux qui expliquent.
Ça c'est l'apport de l'artiste pour sa propre visibilité en tant que créateur de contenu sur la plateforme, mais est-ce que vous prenez en compte aussi du coup les autres créateurs de contenu qui pourraient featurer l'artiste, mettre de la musique dans une vidéo, ce genre de truc?
Bien sûr, si on les connaît, mais tu vois, après c'est donc c'est pour ça que je te parlais des agents tout à l'heure, t'as des gens qui sont vraiment spécialisés dans cette mise en relation. Donc effectivement, on en connaît certains, mais on n'a pas aussi l'intégralité de ce réseau à
disposition. Parce que le métier d'attaché de presse, il évolue, il s'adapte, donc est-ce que à terme ça sera pas un incontournable que dans le toolkit de l'attaché de presse tu es aussi une
commence
mais bien sûr, après ce sont aussi des évolutions de carrière individuelle, de savoir vers où on a envie d'aller ou pas aller, ce qu'on maîtrise ou ce qu'on maîtrise pas.
Oui, tu veux pas tout couvrir non plus, il faut
puis, les envies, des cultures. Moi je pense qu'il faut être experte dans ce qu'on sait faire et apprendre un peu plus, et on peut très bien avoir 2-0-6 de plateforme parce que dans le grand schéma du grand tout, il y a un moment on est le truc qui appuie le plus, et idem pour des influenceurs, des influenceuses, enfin des créateurs de contenu. Et mais après ce que je me dis aussi, c'est que bien maîtriser, mieux vaut. Enfin, alors après, c'est mon côté tenir l'échelle et voir les autres monter sur l'échelle. C'est bien maîtriser ce qu'on sait faire et s'associer à d'autres qui ont d'autres compétences. Ouais. Je trouve que c'est plus fort.
C'est tellement plus intéressant aussi. Tu vas partager autour d'une même problématique et surtout te refaire à des spécialistes. Parce que moi, je te parlais d'un ou deux numéros. Mais ça fait pas l'écosystème. Deux numéros.
Non.
T'as toute une armada d'influenceurs, de créateurs de contenu. Ouais. Donc autant s'adresser à des personnes qui peuvent te conseiller pour ton esthétique, les youtubeurs qu'il faut, comme les tiktokers. Ouais.
Puis d'ailleurs, souvent les artistes eux-mêmes ont cette culture ou ne l'ont pas. Tu citais Julien Granel, on sait que c'est une culture qu'il a. Les acteurs du web,
il a des attachés de presse
aussi. En plus. J'imagine, bien sûr. On parlait des plateformes de streaming. Il y a quand même une particularité par rapport aux médias historiques, il me semble, c'est que leur fonctionnement est, en tout cas pour le grand public, un peu plus opaque. Que leur métier premier et leur modèle économique n'est pas la création de contenu ou la mise en avant d'artistes non plus. C'est avant tout qu'il y ait des écoutes sur la plateforme, presque pour eux, d'une certaine manière, peu importe qui, donc il y a des écoutes. Bon, ça c'est en tout cas, il faut des utilisateurs. Est-ce que ça change aussi quand même la nature des relations qu'on a avec ces partenaires-là? C'est d'une certaine manière des partenaires. Est-ce que vous avez l'impression de perdre un peu la main sur la résonance médiatique des artistes, parce que les plateformes, elles font aussi leur business d'une certaine manière de leur côté, pas comme les médias, pas exactement pareil.
Est-ce que moi je peux poser la question
plus, enfin c'est une
ouais vas-y
à votre avis tous les deux qu'est-ce qui fait l'argument de mettre en haut sur une playlist?
Et justement, je parlais d'opacité.
Très bonne question.
Moi je ne sais pas, en tout cas
je crois que tu devrais lui demander.
Là, je suis pas sûre que tout en haut de la playlist ça soit quelqu'un. Personne n'a jamais entendu parler.
Oui.
Je pense qu'il y a eu un travail en amont, en fin de compte, pour. C'est pas une révélation. C'est pas
un travail qui s'appelle une attachée de presse.
Vous voulez dire que c'est le travail de fournir une attachée de presse? Oui, après, on sait aussi.
Alors, attention.
On sait qu'il y a des gens qui payent aussi, d'ailleurs, pour être parfait.
Attention,
c'est censé être illégal.
Il y a même des vidéos qui sortent, là, pour expliquer que Spotify, notamment dans les playlists un peu genre jazz in the background, là, en fait, sur 12 artistes, il y en a 6 qui n'existent pas.
Oh, ça, oui. Il y a eu plusieurs enquêtes journalistiques, effectivement. Ouais. Bon, bref.
Il y en a eu, mais globalement, c'est comme toute mise en avant marketing, il y a un travail de fait, une argumentation donnée. Je pense que ce serait d'une grande naïveté que de penser que le pitch suffit à donner envie à des éditeurs et des éditrices, à part des titres incroyables, et heureusement, comme en radio. Mais c'est toujours comme elle disait, tout un écosystème. Ça veut dire que, évidemment, on se doute bien que Pierre Demar, qui va faire 70 dates dans des salles de 2000, potentiellement, il y a, ne serait-ce que, s'il n'y avait même que 1% des gens qui Shazam, parce qu'ils l'ont entendu en radio, vont vouloir l'écouter sur une plateforme et que le titre va remonter tout seul. Je veux dire, là, ce qui se passe typiquement avec Yamé, soit il y a une qualité artistique, moi je trouve incroyable.
Je suis d'accord.
Mais il y a aussi tout un travail en dessous qui fait que les gens veulent écouter ça. Mmh. Et où on écoute ça? On écoute ça que sur une plateforme. Ou à la radio, mais et, je veux dire.
Il y a Yamé qui vient d'ailleurs de toper les premiers du virage voilà. Spotify mondial.
Bizarrement.
Bon, c'est sa version chez Colors, et Colors a aussi une résonance particulière.
Ouais, je dis bizarrement avec beaucoup d'ironie, la semaine où il vient de jouer 5 jours d'affilée au Transmusical, qui est quand même le focus monde de la musique, où il y a des professionnels du monde entier, où il y a une communication vers l'extérieur de la France énorme, avec un label qui travaille incroyable, avec une production qui travaille de fou, et avec un tourneur qui a bien l'intention qui parte sur les routes pendant des années.
Plusieurs années.
Donc moi je ne minimise pas la force de la plateforme, mais je veux dire ça serait naïf que de se dire que c'est
que la plateforme,
et l'algorithme qui décide.
Seulement.
C'est l'œuf ou la poule quoi.
Est-ce que ça vous va si parfois on rapproche votre métier d'une forme de lobbying, c'est-à-dire que faire en sorte que l'artiste...
lobbying c'est connoté un peu négativement.
Non, ouais, mais justement parce que faire en sorte que l'artiste soit diffusé sur un média quelconque, ok, je l'entends. Mais plus le truc de travail de sap. Cette personne, j'ai des bonnes relations avec. Puis petit à petit, je sais que je pourrais glisser un peu plus d'artistes, des choses comme ça. Est-ce que ça peut avoir cette forme-là? C'est le métier, hein, pourquoi pas. Mais ce côté, je travaille en tâche de fond pour obtenir aussi quand même des résultats, arriver à mes fins au final, quoi.
C'est-à-dire j'utilise de mon influence pour promouvoir...
Mais on est contente de défendre des projets et heureuse d'en parler avec des gens qui ont aussi ce goût de la découverte. J'ai beaucoup employé le mot, donc j'arrête avec appétence. Qui ont aussi ce goût de la découverte et l'envie.
Les récompenses aussi, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, on l'évoquait un peu avant le début de l'émission.
Les victoires de la musique.
Là, les gens peuvent se dire, dans le cas d'une compétition, est-ce que c'est normal que les relations le fait, etc., ça joue pour des récompenses.
Moi, je connais plus le prix Joséphine, voilà, que j'aime beaucoup. Thurie a remporté le prix Joséphine cette année. Et je ne suis pas certain que ça soit un grand travail de réseau qui a fait que Thurie a remporté ce prix-là. Je pense que c'est dans une équité, une reconnaissance d'un travail incroyable parce que c'est un super artiste. Voilà. Et donc, tu as des gens qui sont allés aussi piocher dans une immensité de titres proposés et qui ont, parmi la proposition, je crois qu'il y avait Prince Wally, il y avait différentes esthétiques qui ont choisi Thurie.
Seulement...
Il y avait Zao, exactement, qui vient du live.
Non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout. Je trouve qu'on est vraiment. Florian Leroy a fait un tel boulot de promo nationaux et cet album a été tellement travaillé que non.
Et que je
trouve que franchement, moi, j'ai pas de. Là, franchement, j'ai jamais ce truc du prix ou de pas l'avoir. Ça pique même. Enfin, il y a un moment, c'est indécent d'être piqué quand on a beaucoup de retours, qu'on accompagne une artiste qui peut faire autant de dates et qui a autant travaillé pour que ce soit parfait. Ça peut pas piquer quand en face c'est quelque chose qui est vraiment super. Enfin, je veux dire.
Son live, tu l'aurais vu derrière son piano. Enfin, c'était magnifique. Déjà, elle était là. Et elle a fait un live magnifique.
Voilà.
Après, elle a déjà des prix. Elle a la reconnaissance du public. Ouais. Elle fait beaucoup de concerts.
Je trouve que c'est important la diversité. C'est important de voir d'autres choses. C'est important de partager.
Et pour revenir sur cette histoire de récompense, on parlait des victoires de la musique avant l'émission. Tu me dis si t'as envie d'en parler. Mais tu disais, en gros, que avant, quand la date des victoires de la musique se rapproche, les attachés de presse, ils se mettent au charbon.
Mais on se met toujours au charbon.
Parce qu'on sait que ça peut faire une différence, un attaché de presse qui travaille bien ou une attachée de presse qui travaille bien.
Mais ça fait toujours la différence toute l'année.
Mais
ça
en théorie,
on
se dit que les récompenses, c'est pas censé être sur le bon réseau, le bon attaché de presse, etc. C'est avant tout sur le projet artistique.
Ah non, lui, oui, là, il parlait des récompenses, pas du travail de l'attaché de presse au long cours. Il parlait du fait que le push de l'attaché de presse.
Est-ce que ton travail d'attaché de presse va faire que
potentiellement
l'artiste que tu défends aura ou pas
plus de chances d'avoir une récompense, alors que c'est pas censé être ça qu'on juge.
Oui, mais il faut bien qu'il soit connu, l'artiste. Mais
justement, voilà, quel, il répond seul.
Eh oui, non, mais, non, ça y est, j'ai compris, j'ai compris le métier.
On est là pour poser des questions, après.
C'est un café.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, ce côté... En fait, surtout du point de vue du public, qui ne connaît pas ce milieu, parfois on se dit... Oui, il y a le côté positif du réseau, mais aussi le côté, c'est le copinage, c'est tel avantage. Est-ce que vraiment on
le
a
complotisme,
jugé...
Salman, le complotiste,
non,
attention.
Non, mais il y a des trucs légitimes parce que parfois aussi, on peut se poser des questions sur la.
Mais pourquoi cet artiste que je trouve éclaté, comment ça se fait qu'il a une victoire de la musique?
Bah
c'est
ouais.
Vrai, c'est vrai,
ouais.
C'est vrai.
On peut se poser ces questions-là aussi parfois. Ou alors, sans prendre des récompenses, se dire, tel artiste, il a un traitement dans les médias exceptionnel par rapport à la réalité du terrain. Comment il remplit les salles, comment ses écoutes sur Spotify, ses ventes d'albums, etc.
Ça, tu t'en as vraiment ça ?
On a l'impression que parfois il y a des petits chouchous, notamment quand ils sont installés depuis très longtemps.
Ah. Qui sont déjà dans le système médiatique.
Ou en vrai, leur projet est pas si intéressant artistiquement. Après, c'est de la vie
parce
personnelle.
Parce qu'ils t'intéressent pas.
Mais parce que c'est
pas
si t'intéresses.
Encore une fois, tu oublies la province,
avec la vie, etc.
La région.
La région, les territoires.
S'il te plaît.
Les territoires.
C'est mieux.
Ouais, parce que province, ça veut dire pays vaincu, donc je préfère région.
C'est vrai.
Oui.
Ah, j'ai jamais.
Ouais, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Mais c'est très subjectif postulat. C'est très subjectif.
De se dire qu'il y a des, artistes qui ne méritent pas leur exposition.
Parfois, on peut s'accorder pour dire qu'un projet a éclaté, je crois aussi. Hein.
Non, moi, jamais. Ça, c'est un truc.
Non,
moi, je crois ça aussi.
Je suis incapable d'aller dire ça d'un travail artistique qui a été fourni dans la peine et l'effort.
Enfin,
quelqu'un me donne son cœur. Enfin, tu vois,
non,
c'est.
Non, mais attendez, là, c'est. Non, mais là, ce qui se passe, c'est incroyable. Enfin, tu rejoins le côté obscur et ça me fait plaisir de te voir faire du daz sur cette émission.
Non, mais parce que, en fait.
Je vais être plus magnanime, ça.
Non, mais je crois.
Donne des noms.
Non, mais je crois à la subjectivité du.
Bien sûr.
L'art, c'est aussi une part de subjectivité. Je crois aussi que l'art, c'est pas juste le truc magique de quelqu'un qui a mis son cœur. Il y a aussi des critères objectifs de travail, d'enregistrement, de progression harmonique, de plein de trucs. C'est-à-dire, il y a des recettes aussi dans la musique. C'est pas vrai que c'est uniquement le truc, l'inspiration qui sort de nulle part. Et parfois, on peut dire, là, on voit qu'il n'y a pas eu assez de travail, ou il n'y a pas eu de, ben, je crois à ça. Mais c'est un autre débat.
C'est l'alchimie de tout ça.
Ouais,
va faire
ouais bien sûr. Bien sûr. Mais ça permet quand même à des moments de dire, là, il manque trop de choses pour que je puisse considérer que c'est de la bonne musique.
Il est incroyable.
Ouais, je crois.
Ouais, okay. Ouais. C'est, t'as beaucoup de
n'hésitez pas, n'hésitez pas à commenter cette émission. J'adore.
Non, mais c'est ouf parce qu'il y a des moments où je peux vous faire ce que j'ai fait dans ma chambre hier et vous allez me dire c'est pas encore au point, Salman. C'est pas ouf. Et c'est pas grave. Et c'est parce que c'est vrai.
Mais nous, on te regardera juste avec un grand sourire encourageant.
Non, mais donc tu vois qu'il y a quand même un truc où parfois on peut se dire.
Je suis plus sûre là, du coup. Je suis pas sûre que je sois capable d'aller jusqu'à là. Parce qu'il est quand même allé très très loin là déjà.
Ouais.
Non,
c'est le jugement, il est terrible. Enfin, non. Te dire, c'est toi et toi-même et ton goût. Et moi, je sais que je serais incapable d'aller dire ça d'une production artistique de quelqu'un. Pour moi, nul n'est moins apte à aborder une œuvre d'art que la critique. C'est Rilke qui te le dit, c'est l'amour qui doit l'aborder. Salman, c'est l'amour. Et tu n'as pas d'amour quand tu parles comme ça.
Non,
ou tu es mauvais.
Non, mais, non.
Il est rempli de haine.
Non, c'est tellement pas.
Éclaté. Ok, alors on t'écoute maintenant. Un petit piano, Salman, non. C'est à toi.
Mais justement.
On a un grand piano même, Salman.
C'est vrai.
Quel exemple j'ai pris? J'ai pris le mien en disant ce que j'ai fait hier, c'est éclaté.
Bon, non, bref. Mais c'est je suis pas de cette école-là, mais après, j'entends ce que tu peux dire.
Non, mais c'est vrai,
mais je le dis je pense qu'on n'arrive pas quelque part par hasard.
Non, mais je le dis de manière provocante, quand je dis éclate, etc. C'est juste, je pense quand même qu'il y a des moments où on peut se dire, telle musique, je pense qu'il y a eu un peu plus de travail, ou elle est plus intéressante, etc. C'est
non, ça. Après, je rejoins ça
finit par alimenter, on peut pas penser comme ça, parce que ça va finir par alimenter le fait que, sur des cérémonies extrêmement médiatisées, ou sur des prix extrêmement médiatisés, vont se voir autoriser des hommes et des femmes à clasher les artistes qui ont réussi.
Non, c'est pas ce qu'on dit.
Oui, bah oui, mais si. Parce que estimer que son propre goût est la norme.
Fait loi, oui.
Et fait loi, et que, bah, qu'en face. Le jour de la cérémonie, c'est je ne sais pas qui a la victoire, la flamme, le prix Joséphine, le grand prix SACEM. Et en plus, on parle de quelque chose qui est déjà médiatisé, parce qu'il n'y a pas que ça comme prix. Il y a de très beaux prix, il y a de très belles récompenses.
Non, mais c'est vrai que
le prix d'Académie Charles Cros, voilà. Enfin, tu vois, on va pas tous te les lister, mais il y en
a
énormément.
Et du coup, ça autorise derrière à dire, oh bah ouais, en fait, toi t'es tout pété, toi t'es claqué, toi on t'emmerde. Et c'est parce qu'au final, quand on regarde les cérémonies, et on a envie de dire, oui, mais déjà, on t'oblige pas à regarder, t'oblige pas à écouter, tu pourrais juste être content, en fait. Et il y a des gens qui ont travaillé pour ça, tout autour. Faut aussi quand même être lucide de se dire que les victoires, elles récompensent aussi des équipes en fait professionnelles.
Alors justement, non mais là c'est super intéressant. Non mais ça c'est super intéressant.
Merci.
Moi j'ai bon, c'est toujours très intéressant de toute façon quand vous parlez. Hein. Non mais j'ai par exemple pour illustrer un peu ce que Salman disait, même si effectivement il l'a dit peut-être de manière un peu brutale.
Je provoque.
Moi je me rappelle par exemple.
Quelqu'un de gentil.
J'étais jeune et ambitieux, parfois vicieux à l'époque. Mais
tu as crié quand ils ont gagné et ramené la 504.
Bah, par exemple. Même si la Céno était nulle. Non mais par exemple je me rappelle des victoires de la musique avec Mano. Alors que NTM était nominé, alors qu'il y avait des groupes comme ça, ouais. Et tu te dis, en tant que auditeur de cette niche musicale, j'étais devant ma télé en me disant, mais ils se foutent de notre gueule, tu vois, parce que
fondamentalement, moi, je me suis dit aussi que j'aurais sûrement préféré que ça soit NTM, mais après, voilà.
Et moi, en tant que bretonne, on en parle ou pas?
Ne parlez pas une bretonne, Manu. C'est très mauvaise idée, les gars.
Non, mais c'était la catégorie.
C'est pour ça que je parle de subjectivité, en fait.
Oui, mais est-ce que justement, musicalement parlant, on peut se dire à un moment donné, ok, les mecs, ils ont fait peut-être, la vallée de Dana, Hakim, le fils du forgeron, tout ça. Ok.
C'est un bon morceau.
Pourquoi pas?
C'est hyper méprisant.
Non, justement.
Tu ne savais pas avant. J'ai essayé de te glisser quelques mots en disant, mais tu n'as pas écouté.
Justement, le truc fonctionne. Le truc fonctionne, tu vois. Mais effectivement, quand t'es un petit peu investi dans une scène, tu te dis, je l'aurais pas donné à ce groupe-là, tu vois, par rapport aux autres lice.
Mais c'est toujours comme ça, c'est t'as toujours des.
Et c'est là, non mais c'est là.
C'est là
que tu te dis quelle est la part d'artistique et la part d'influence aussi, peut-être qu'ils avaient.
Et qu'est-ce qu'on dit de la part du goût du public, parce que je suis désolée, mais si on
donnait, exemple, Mano.
Si on ne donnait que la ref que vous avez donnée sans le nom du groupe et Mano,
ouais.
Et ben, je serais curieuse de savoir combien de gens vont mettre le nom sur la ref, quoi. Par contre, dans la rue, quand on dit Mano, ou quand on dit la tribu du forgeron, ouais, tout le monde sait de quoi on parle. Et ça,
oui,
ça fait
mais alors,
c'est des succès, c'est populaire.
Les succès populaires.
Ouais. Moi, je peux pas me dire que le peuple est bêta. Que ces milliers de gens.
C'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que est-ce que le truc était bon et il est devenu populaire, ou est-ce qu'on a fait en sorte qu'il soit populaire pour qu'il rentre dans la tête des gens, parce que c'est aussi du matraquage, et que du coup, on part du principe que puisque tout le monde le connaît, c'est que c'est bon. Tu vois, mais là on part dans un autre débat.
Combien de fois on doit playlister pour que l'autre tienne? Est-ce qu'à 5 playlists jour on passe sur un tube?
Tu vois la notion quand même de. Tu vois,
là,
de...
Je passe mon tour. Sachez-le.
Non, mais, en fait, c'est.
Moi je bosse pas avec les réseaux. Je passe mon tour aussi.
Ce que révèle notre discussion et qui est intéressante au-delà des petites provocations, etc., c'est que il y a des rapports évidemment personnels à la musique, mais il y a aussi c'est une industrie. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la musique est géniale, elle rencontre
la bonne volonté,
et puis ça se fait tout naturellement, etc. Il y a quand même aussi l'argent, par exemple, aussi qui peut rentrer en compte, je sais pas, non.
Ça... Moi, je suis pas sûre qu'en ayant le meilleur community manager du monde, en achetant des, je me souviens d'un jour, j'avais invité un gros tourneur à un concert à la Boule Noire. Les émergents font beaucoup de concerts à Paris à la Boule Noire, et le concert était complet, voire il y avait des gens dedans, et ce tourneur, enfin devant, c'est qui attendait, et il me dit, ah bah c'est marrant parce que il y a pas longtemps, j'étais invité à une Boule Noire, un type qui avait des millions de vues, tu vois, sur YouTube, sur son clip, et il rentre dans la salle et il y avait personne. Donc ça veut dire qu'avec l'argent, t'as acheté des millions de vues.
Oui, mais qu'il n'y a pas d'audience, ça s'est pas transformé.
Il
n'y
avait pas d'auditeurs, il n'y avait pas de spectateurs. Donc ça ne résout pas tout. Faut
oui, mais des fois,
c'est la rencontre de plein de choses.
En fait, oui, mais c'est aussi, il y a aussi le, notamment sur les réseaux, le principe du on ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire que bizarrement, un artiste qui poste une vidéo, s'il a 1000 vues, les gens vont pas aller dessus. S'il en a 250 000 en 5 jours, et généralement c'est ce que font les gens, c'est-à-dire qu'ils amorcent un petit peu la pompe pour justement faire en sorte de créer un mouvement.
Et que,
et les gens vont se dire, ah, mais il a déjà 250 000 vues, ça doit être bon, je vais le regarder. Et puis après, je vais en parler.
T'as aussi des suiveurs, tu vas être aussi, t'as peut-être moins de défricheurs qu'avant, mais t'en as toujours, quoi. T'as toujours des médias et des journalistes qui vont aller trouver un Yame Bantu qui était sur TikTok, qui faisait un nombre de vues incroyable, et il a trouvé l'entourage, et aujourd'hui, il est là où il est. Enfin, tu vois, donc je pense que c'est la conjoncture de tous ces facteurs qui fait la réussite. Je pense que la Terre n'est pas plate. Hein. Je te sens platiste, mais vous, à l'autre jour.
Ça, c'est le truc le plus violent qui a été dit dans cette
émission. Voilà, excusez-moi.
Non, mais on est d'accord que c'est une industrie, que c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas une question de complotisme. C'est de dire qu'il y a aussi des gens qui investissent, qui veulent un retour sur investissement, etc. Ça existe aussi.
François, est-ce que tu peux mettre une petite musique de complot?
C'est horrible.
Après, je dis aussi souvent que ceux qui bichent sur les victoires, ce qu'ils adoreraient, c'est d'aller boire le champagne en victoire, en fait.
Ou d'en avoir une. J'aimerais avoir une victoire, toi.
Oui, avec ma prod d'hier un peu éclatée. En vrai, elle a sa chance.
Avec Patricia.
Non, désolé. Je ne peux pas. Mon planning n'est pas totalement compatible avec cette sortie.
Ce n'est pas mon esthétique.
Non, par contre, si, un truc important que je précise. Je pense effectivement qu'on peut dire à des moments, ça, je pense que ça a trop de critères. Pour que je puisse, enfin, je peux dire, tu vois, c'est nul. Par contre, ce que je crois, c'est que il ne doit pas y avoir de hiérarchie. Genre, c'est une musique plus complexe, donc elle est supérieure, par exemple, à cette musique populaire, un truc comme ça. Ça, c'est un truc auquel je crois fondamentalement, par contre. C'est qu'il y a des musiques adaptées à des moments, à des envies, à des phases, à des écoutes, des choses comme ça. Et que là, il ne faut pas hiérarchiser entre Jules et Beethoven. Tu vois, ça n'a aucun sens. C'est débile.
Non,
ça, oui. Je précise ça.
Non, moi.
Je suis pas si platiste que ça, quand même. Non,
ouais, défend,
saloperie d'élitiste, là. Parisien.
C'est bien, c'est que je pense que vous imaginez qu'en fait les attachés de presse c'est vraiment beaucoup de personnes qui sont dans le consensus et la langue de bois. Je pense que c'est on peut juste être convaincu du métier dans lequel on évolue, être convaincu que on est toujours, on accompagne toujours l'artiste le moins bien que celui d'à côté. Mmh. Et néanmoins, il y a quand même des nouveaux prix. Parce que dans le prix précédent, on estimait qu'il n'y avait pas la place. Et en fait, on fait quand même des prix. Mmh. Donc ça veut dire que le prix veut bien raconter quelque chose. Et que moi, franchement, du nouveau prix qu'il y avait l'année dernière, je suis vraiment très déçue de ne pas avoir été invitée. Parce que je trouvais que ma place, elle était, même si j'accompagnais pas d'artistes qui potentiellement étaient nommés dans les nouveaux prix, eh ben j'aurais adoré aller au nouveau prix. Parce que je trouve qu'aller à la remise de prix, c'est reconnaître aussi qu'il y a des gens qui ont énormément travaillé pour que des artistes soient récompensés. Et que rien que pour ça, je trouve que les victoires, les flammes, le prix Joséphine, l'Académie Charles Cros, les prix de la SACEM et plein d'autres prix sont importants. C'est parce que ça récompense aussi au travers des artistes, des gens qui ont un savoir-faire, des hommes et des femmes qui se lèvent tous les matins pour faire exister le rêve d'autres artistes qui ont en eux des choses que leurs équipes n'ont pas. Et ça, ça a une valeur tellement énorme que moi, tous les ans, j'espère un truc, c'est que parmi tous les artistes que j'ai accompagnés, il y en a bien au moins un qui va y aller. Et que moi, il y a une petite poussière de mon travail qui sera récompensée, et celle de mon copain François, ou le manager de l'autre, ou et des équipes d'en face. Et quand c'est les autres qui ont, des fois ça pique. Moi, ça m'est arrivé que ça m'ait piqué parce qu'on y croyait. Mmh. Et en fait, de pas l'avoir, on se dit, mais les autres, ils ont peut-être mieux bossé, en fait. Mmh. Et rien que pour ça, je trouve que ça a beaucoup de valeur. Et c'est aussi des moments où, alors très égoïstement dans nos familles, subitement, nos familles, elles savent ce qu'on fait. Mmh. Et ça veut dire que dans les familles de plein de gens, c'est ce qu'on fait, et qu'on donne des modèles à d'autres en se disant, c'est une représentation d'un métier qu'on ne connaît pas. Et que notre métier, ce n'est pas que la Starac, quoi. C'est un truc de tous les jours. Quand on dit révélation scène, quand on dit révélation de l'année, quand on dit titre de l'année. Et c'est des gens qui s'approprient des choses.
Tu sais, ça c'est intéressant parce que ça montre aussi que, parfois, avec le regard extérieur, mine de rien, c'est souvent l'interprète qui prend un peu toute la lumière et qu'on oublie justement que ça fait, que ça célèbre aussi le travail de toutes les équipes. Ouais. Mais ça, c'est un défaut aussi du traitement médiatique, je trouve, et du fait qu'on individualise énormément la réussite.
Mais merci l'entourage.
Oui, c'est pour ça
merci
beaucoup.
Mais ça reste... Merci et tous ces merci. Et au final, c'est une équipe qui gagne.
Mais ça reste limité quand même.
Oui, mais t'es content. Moi, je suis juste contente pour un projet qui va remplir une salle en région, salle à Paris.
Vous trouvez pas quand même qu'on a l'impression que souvent la réussite d'un artiste, tout de suite on l'attribue quand même avant tout à l'artiste pour ses qualités intrinsèques.
Mais c'est lui qui l'a fait.
Ah mais tout seul, est-ce qu'il serait allé là?
Ah oui, mais après ça le
match. Oui, mais il y a un truc qui est clair.
Il y a
un truc qui est clair, c'est que sûrement son entourage, il ne serait peut-être pas là. Mmh. Mais sauf que Je dis pas qu'on est interchangeable, mais en tout cas, on a des compétences qui sont interchangeables. Sauf qu'un artiste, quand il écrit un morceau, ou une artiste, quand il écrit la musique, il y a que lui qui peut faire ça. Personne ne peut faire ça à sa place. Donc ça, c'est pas interchangeable. Donc nous, on est des artisans, des artisanes qui aident à réaliser.
Oui, je dis souvent artisan. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est quelque chose, tu construis une com' et puis on a de la chance d'accompagner des beaux projets. Quoi.
Ouais.
Et c'est une chance.
Là, si j'avais voulu être mauvais, j'aurais dit, parfois, il y a de la musique interchangeable. Un peu pondue, de la musique
au maître. J'y pensais. Moi, j'allais dire, parfois, il y a des artistes qui n'écrivent pas la musique ni les paroles.
Non, ça s'appelle des auteurs, des autrices, des compositeurs, des compositrices. Que ça ne soit pas votre goût. C'est quelque chose.
Oui. C'est une scène urbaine où, en fin de compte, la CI, où le gars, il est auteur, compositeur,
généralement, oui.
Pas forcément compositeur.
Après, j'en suis revenu.
Ça aussi,
j'en suis revenu, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a certaines propositions artistiques où tu te dis, ça me parle tellement. Parce que j'arrive à comprendre des trucs. Par exemple, Jules, à titre individuel, j'écoute pas. Parce que j'aime pas. Mais je comprends que ça fonctionne et je trouve que son succès est complètement mérité. Tu vois, c'est aussi ça, être capable de dire ça me parle pas, mais je comprends le succès et c'est légitime.
Alors que, tu vois, ça, je peux le dire aussi. Et je peux dire, par contre, René La Taupe s'est éclaté. Et je l'assume. C'est
mais
pas
René La Taupe. Regarde, René La Taupe. Excuse-moi, j'ai pas la référence de René La Taupe.
C'est ça, tu
veux me chanter?
Non. Crazy Frog.
Crazy Frog, banger.
Non mais Axel Follet à la base, oui. Mais ok, tu vois
Frog,
l'original. Non mais tu vois, on peut quand même trouver des morceaux. On s'accordera pour dire que c'est pas ouf.
Oui, ou le hit de l'été TF1 qui est de la musique
j'ai envie de faire dire à des attachés de presse, c'est vrai qu'il y a des artistes pas ouf. Non mais j'y arriverai pas.
C'est pas ceux dont on s'occupe. Ouais. Nous, on s'occupe d'artistes dont on aime le travail. Et on est tellement contente de représenter des artistes comme ça.
Ça, c'est ce qui ressort depuis le début. C'est effectivement la passion pour la musique, l'amour pour les gens que vous accompagnez, le fait que ça soit une équipe.
C'est de se trouver chanceuse, de défendre des projets. Moi, samedi, j'étais à l'Olympia avec Maya Comati.
Ça donne envie, on se dit que c'est un beau métier.
J'ai eu les larmes aux yeux en la voyant sur la scène de l'Olympia. Tu vois, c'est incroyable. Elle était sur la scène de l'Olympia. Première partie de Manu Payet, elle était sur la scène de l'Olympia.
Moi, j'écoute plein de musique et je suis hyper contente quand je vois des gens qui osent pas me dire qu'ils trouvent que un des artistes avec lequel je travaille c'est complètement éclaté au sol. Ça me fait kiffer. Parce que, en fait, je m'en fous, en fait. Parce que je demande pas à tout le monde de trouver génial. Mais par contre, ce que je sais, c'est que généralement, les personnes qui dans ce milieu pensent ça, donnerait très très cher pour être à ma place.
Mais sauf que tu dis que c'est éclaté, moi je m'énerve.
Mais sauf que je dis ça avec de l'ironie, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui comprennent pas mon postulat artistique, quoi. Qui se disent mais où va-t-elle? Et donc c'est aussi pour ça qu'on me propose beaucoup de choses différentes, parce que du coup on se dit, au début on se dit elle est plutôt ça, elle est plutôt ça, elle aime plutôt ça, en fait.
Ouais, là non. Tu ratisses large comme ça.
Mais c'est pas que je ratisse large, c'est que j'aime beaucoup beaucoup de choses et que dans les projets je vois des choses très très différentes. J'ai travaillé avec Cheval Rex quand le label Vietnam m'a appelé, c'était pas un premier album. Moi je me disais, il y avait déjà eu énormément de presse sur les précédents. J'adore les projets de Rémi Poncet, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, mais je trouvais que ça, c'était une magnifique cage dorée. Alors il avait des In Rock, du Télérama, du Libé, déjà sur les albums précédents, et des super papiers. Mais je me disais, mais pourquoi on parle pas aux médias dit plus populaire, parce que les gens cette espèce de chansons un peu indie, ils sont pas capables, ils sont pas capables d'entendre, pas capables de comprendre, ça va pas les toucher. Et j'y suis allée pour ça et j'étais méga contente quand j'ai eu des trucs, des médias très populaires. Et lui aussi, parce que justement, c'est ça qui est intéressant. Et puis ça ouvre et ça veut dire que d'autres gens découvrent.
On m'écoutait, ça c'est génial.
Voilà, et c'est génial ça.
Tu changes les spectateurs, les auditeurs, t'en gagnes d'autres.
C'est trop bien.
T'en perds certains.
C'est trop chouette quand quelqu'un me dit « Ah ouais, non mais je savais pas, c'est vachement bien. »
Mais ouais.
J'adore.
Ouais. C'est quand même dingue.
D'autant plus que quand parfois on imagine qu'une esthétique n'est pas faite pour tel type de population, on se rend en fait vite compte, mais si tu lui offres la possibilité de l'écouter... Petit à petit, elle va finir par l'apprécier, elle aussi. Elle va en comprendre les codes, etc. Parce que la musique, ça s'appréhende. On apprend à comprendre la musique aussi.
Puis de gagner du public, de travailler sur des projets où les esthétiques sont justement pas autant exposées. qui serait légitime qu'elle soit, pour plein de raisons, parce que c'est la mode, parce que on se dit oh bah plutôt ci plutôt ça, et que d'un seul coup on se rend compte bah, qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent et c'est génial, c'est vraiment super.
Je vous propose qu'on termine avec une toute dernière partie. Alors, on n'a plus énormément de temps, mais il faut quand même qu'on en parle sur cette notion un peu d'engagement, entre guillemets. On a compris que pour vous, de façon de base, vous faites un métier engagé vis-à-vis des artistes que vous aimez et que vous accompagnez. Mais ça va un peu au-delà parce que vous prenez aussi en charge des projets qui vous touchent plus personnellement, au-delà des artistes, etc. Je pense notamment à Rappeuse en Liberté, je pense à Majeur, peut-être que vous voulez en citer aussi d'autres. Mmh. Mais est-ce que vous voulez parler un petit peu de ces projets rapidement et comment vous, en tant qu'attaché de presse, vous vous inscrivez dans ces projets, est-ce que vous communiquez autour par exemple, comment ça se passe?
Alors je sais pas, tu me parles de Rappeuse en Liberté, mais ça, je pourrais parler aussi de Bro, je pourrais te parler de Maya Kamati. Moi j'aime beaucoup les projets incarnés par des femmes, parce que c'est et puis c'est vrai qu'on me définit souvent pour des projets dits militants ou engagés, mais alors je pense que les femmes intrinsèquement on est engagées de ce fait et féministes, et oui ça me tient à cœur effectivement d'être à côté de femmes dans la musique, parce que c'est quand même une question tu regardes par exemple sur la scène urbaine, je crois que de diffusion de rap féminin c'est 10%. Mmh. Et en festival je crois que c'est 5%, enfin c'est compliqué, donc oui j'ai envie d'accompagner des projets qui sont vraiment vraiment très chouettes, mais parce qu'ils sont chouettes, pas seulement portés par des femmes, même si c'est des choix de femmes, enfin tu vois c'est une chance, Rappeuse en Liberté, mais on facilite l'émergence de femmes donc dans le milieu du rap. On fait un appel à candidature, on reçoit beaucoup de candidatures, plus de 300 cette année. On accompagne 10 jeunes femmes pendant quelques mois. Ensuite, 3 profils se détachent au cadre du Mama Festival. C'est la dernière scène, il y a le Grand 8 et le Mama Festival. Et on va accompagner ces personnes pendant quelques mois, Studio des Variétés. On va leur présenter du monde chez YouTube, à la SACEM, leur expliquer leurs droits, leur créer tout un écosystème. Mmh. Et à la fin, elles iront jusqu'aux Ardentes, ce qui est quand même la consécration quand t'es dans la scène urbaine. T'as des très très beaux festivals, Paradis Artificiel, Dour, Ardentes. Donc elles ont la chance de pouvoir jouer aux Ardentes et c'est super chouette. Et oui, moi je trouve un sens effectivement dans l'accompagnement de projets portés par des femmes, dans l'accompagnement de projets de personnes dites militantes. Quand je travaille pour Valsero, qui est un rappeur camerounais, qui est un opposant politique à Paul Biya, qui a été emprisonné pour ça, oui, c'est j'avais découvert son histoire dans Panafrica Music à l'époque et j'étais très contente d'accompagner son projet. Je suis heureuse d'accompagner Rossé parce qu'il rappe tellement bien. Et puis il y a le fond et il y a la forme. Mmh. Voilà, je suis chanceuse. Je trouve que c'est ça surtout, c'est d'être chanceuse. Je me trouve chanceuse.
Ouais, en tout cas, t'as trouvé les projets qui te parlent et c'est beau, quoi. Enfin, ça donne du sens à ton métier, j'imagine aussi.
Oui. Je choisis, on a cette chance de. Voilà, on choisit.
T'as cité le fait que tu aimais aussi être accompagné par des femmes, tu peux être touché par des projets de femmes. Souvent, quand tu en parlais, d'ailleurs, Patricia, tu disais elle pour les attachés de presse, parce que c'est un métier, en fait, j'ai l'impression, où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Est-ce que c'est la réalité? Et c'est étonnant parce que, globalement, l'industrie de la musique est clairement dominée par les hommes. Il y a assez peu de femmes visibles, en tout cas.
Toutes les industries.
Tu parles du monde, c'est un patriarcat systémique.
Bien entendu. Mais par contre, le métier d'attaché de presse, c'est plus féminin, j'ai l'impression.
J'ai des copains attachés de presse.
Ouais, mais il y en a moins.
Il y en a moins. Ouais. Je me souviens, tu faisais le West Side de Booba, mais c'était un garçon. Okay. Chez Universal.
Okay. Mais pour quelle raison c'est un métier plus féminin, à votre avis?
Je sais pas, j'ai longtemps mis ça sur un présupposé de patience potentielle et de ténacité.
Ouais.
Et de combativité. Mais après, les générations changent et les garçons de maintenant sont patients, tenaces, aimables. On emmène les enfants à l'école,
je le fais. On va les chercher même aussi.
Ouais, donc je sais pas, par contre, il y a toujours pas beaucoup de place pour que des femmes soient derrière des consoles pour réaliser des albums. Mmh. faire du son, de la lumière. Alors de la régie, oui, ça on a gagné. En régie, ça on a gagné. Mais peut-être parce que les hommes estiment que c'est plus maternel, qu'elles savent mieux organiser les plannings, chercher des billets de train, consoler tout le monde, aller acheter des croissants avant de monter dans le tourbus, j'en sais rien. Dans les, sur les tourbus, il y a très peu de femmes qui conduisent des tourbus. Donc je sais pas, peut-être que dans le temps, je pense que c'est aussi dû à la profession qui était un peu issue de dans l'histoire des femmes qui tenaient salon et qui faisaient énormément de relationnel pour leur époux, leur famille, et qui étaient dans cette communication du cercle et d'un cercle culturel, et que c'était une place des femmes que de, dans certains milieux, parler plusieurs langues, lire, écrire, compter. Enfin, je veux dire, il y avait peut-être de ça.
C'est un héritage.
Je sais pas. Et après, c'est aussi beaucoup de modèles. Si on avait plein de femmes qui avaient dirigé les maisons de 10 depuis 25 ans, j'aurais peut-être, si je m'étais sentie la compétence, j'aurais peut-être plutôt voulu être patronne de maison de 10.
Maison de 10, quoi.
Même si on le sait que dans le hip-hop, des Laurence Tuitou, enfin, que beaucoup de femmes ont construit ce hip-hop aussi, et c'est beaucoup de femmes, enfin, pas seulement pour le rap, mais beaucoup de femmes fondamentales. Ouais. Et on dit bonjour à Perrine Champagne, qui est chaisonnière RCA, qui a un poste de DA, qu'elle a mis du temps à avoir, qu'elle a et qu'elle incarne très bien. Ça, on va pas refaire, là, sur l'émission. On va pas réexpliquer le patriarcat et pourquoi ça se passe comme ça pour nous.
Non, mais c'est un truc dont cette émission ne parle pas assez, et de dire aussi qu'il y a un manque clairement de visibilité.
On ne t'invite pas beaucoup de femmes parce que tu ne trouves pas beaucoup de femmes, parce qu'on n'est pas extrêmement représentés. Quand j'étais ingé son à Skyrock, j'étais la seule femme ingé son à Skyrock, effectivement.
Ouais, je le dis,
et ça a amené à évoluer, et tant mieux.
Je le dis souvent, c'est un truc qui, c'est une des grosses lacunes de cette émission, et c'est aussi, nous,
c'est représentatif d'une société aussi.
C'est indéniable, mais heureusement, justement, il y a aussi des actions qui sont mises en place, et c'est avec Majeur,
avec Crescendo, dont je parlais tout à l'heure.
Avec Mewem, avec Chercher la femme, le podcast de Flore Benguigui, où elle fait aussi des soirées.
Super, l'impératrice.
Elle invite, Flore invite d'autres femmes qu'elle reçoit dans le podcast, et où ça, c'est un endroit d'échange incroyable. Toutes les dernières soirées ont eu lieu à la petite halle de la Villette.
Lorraine Bastide avec la potion. On parlait d'Anne Tomasov tout à l'heure avec le tunnel. On parle aussi de Rokhaya Diallo, qui fait un super travail et qui a un magnifique podcast.
Je pense que plus il y aura de femmes représentées, et au moment où elles accèdent à des postes qu'on les rendra visibles, ça donnera...
Des vocations, ça crée des vocations.
Indépendamment de créer des vocations, c'est surtout que ça rend visible impossible.
Ça donnera des modèles, parce que si t'as pas...
Je pense que, enfin, moi, depuis que je travaille, je suis sûre qu'autour de moi, il y a plein de femmes qui étaient des jeunes femmes qui n'ont sûrement pas été au bout de leurs envies dans autre chose que de la promo, parce que là, pour le coup, c'était possible, ou chef de projet avec cette part de marketing, mais qui, dans d'autres endroits de notre industrie, ne sont pas allés au bout de leurs envies, parce qu'elles pensaient que ça n'était pas possible, parce qu'il n'y avait aucune représentation qui disait que ça allait être possible.
Et quand on était là, on était invisibilisés. Enfin, tu vois, je te coupe, mais il y a ça aussi. T'as ces femmes qui sont là, mais elles ont été totalement invisibilisées et effacées de cette histoire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est contente de participer à des majeurs. On est contente. Moi, je travaille sur Woman Beats. Ça facilite aussi l'émergence des femmes dans la musique. Je suis très contente d'être de cette initiative. Comme rappeuse en liberté, si aujourd'hui je m'engage dans autant de projets qui soutiennent les femmes, c'est parce que invisibilisée pendant des années, je suis bien contente aujourd'hui de pouvoir mettre en valeur des femmes. Et quand on me dit oui, mais je ne suis pas que. Je fais ce genre, il est tellement discriminé. Prends la place, on te la donne, parle. Elles sont très très peu.
Et je pense que je parle pour nous deux là, mais si on accepte de venir échanger dans votre émission avec grand plaisir, c'est aussi parce que il n'y a pas beaucoup d'espace pour être aussi honnête dans nos échanges. Enfin, déjà, il n'y a pas beaucoup de place où on laisse les femmes parler, et aussi longtemps, sur plein de sujets. Et moi, je ne suis pas forcément une grande adepte de cet exercice-là, mais je ne refuse jamais Parce que moi, si je refuse, vous mettrez un homme à ma place. Si vous ne trouvez pas
mettra
de
personne,
oui,
on mettra
non,
personne.
Qui t'expliquera en plus comment faire. Enfin, si on était voilà. en plateau, par exemple, homme-femme, moi, je serais à côté d'un homme qui m'expliquerait comment je dois travailler ou ce que je pense ou ce que je ressens. Parce que bien souvent, c'est ça. Je veux pas faire une caricature. Mais donc, oui, effectivement, on saisit le moment de la prise de parole pour pouvoir en parler, pour donner, voilà. pour visibiliser tout bonnement. Et puis, parce qu'on fait partie des métiers de l'ombre et de ceux qui aident des artistes à accéder à une notoriété, à des, enfin,
ce qui est assez paradoxal. Paradoxal d'ailleurs. Vous ouais. passez votre temps à mettre des gens en lumière, mais la lumière, vous la voyez jamais.
Oui, mais ça, c'est, on n'en veut c'est, pas. Enfin, on en veut, ouais. C'est pas notre métier. On en voudrait, on y serait. Enfin, on aurait une production artistique où, tu vois, on a choisi. Enfin, c'est des métiers qu'on a choisis. C'était pas par défaut. Je pense que c'est des métiers que tu choisis vraiment avec tout ton cœur, de la passion. Enfin, parce qu'il faut. C'est un engagement, quoi, effectivement. Et tu y penses. Ouais. Tu penses tout le temps, tu vois, enfin, c'est quelque chose, tu te dis, ah, ça, j'aurais dû le contacter pour lui dire, moi, c'est ça, tout le temps, j'ai des illuminations, enfin, tu, voilà, donc, on est bien contente, effectivement, de pouvoir venir parler d'un métier, de montrer aussi qu'il existe des femmes dans l'industrie musicale, de parler de tous les dispositifs, et on les a pas tous qui sont là pour aider les femmes, de parler du FER, de parler du réseau MAP.
Le FER, on a fait une émission avec le FER.
C'est pour ça que je n'ai pas trop.
Oui.
Avec le FER et
FGO. Et je trouve que pour conclure, comme dirait Lola Frichet, qui est bassiste, More Women on Stage et More Women in Backstage.
C'est vrai, je me rappelle de ce message.
On peut s'arrêter là-dessus, je pense que c'est une belle phrase de conclusion.
Une belle phrase de conclusion.
Merci en tout cas d'être venu nous voir. J'espère que vous avez eu le sentiment justement d'avoir la parole libre, d'avoir un peu de temps pour vous exprimer.
Malgré des visées complotistes.
Non, mais alors ça, par contre, c'est une fake news.
Il est platiste.
Mais arrêtez avec ça, c'est terrible.
On a bien rigolé.
Oui. On termine quand même avec la tradition dans cette émission, c'est les recommandations. Alors il y a eu, ça a déjà voulu filouter d'Az. je peux en avoir deux au lieu d'une.
Non, on n'a pas filouté. On a voulu convaincre. C'est vrai. Je crois qu'on a convaincu.
C'était, mais je suis faible, tu sais.
Elles connaissent leur métier, exactement. Ça a marché. Hein.
Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter? Tu veux commencer, Anne-Sophie? Allez.
Alors je vais parler de femmes, finalement. Je vais parler de Fleur Copain, qui sort son EP bientôt et qui a un titre. C'est de la chanson française, ça s'appelle Flemme. Par exemple, voilà. Moi, j'aime pas une ou deux. Maya Kamati qui met en avant les femmes aussi dans sa musique.
Façon,
magnifique
et
meute.
C'est une invitation à aller écouter les artistes de manière générale. Là, on va commencer un petit extrait de Flemme de Fleur Copain. Et puis après, Maya Kamati.
Ouais.
Allez, c'est parti.
Elle était danseuse soliste au Crazy Horse. Elle va faire sa release au bain bientôt.
Je veux rester chez moi.
C'est pour ça en fin de compte que j'ai pensé à elle.
Ce matin je me réveille et j'ai la flemme. Je suis enfouie sous mes draps. Ne me parlez pas. Je dois m'habiller, me préparer. Putain, je suis en retard. Je vais pas y arriver. Tu veux qu'on baisse ce soir, qu'on sorte ce soir, je cuisine ce soir. Mais tu sais, c'est sans espoir. Je veux rien savoir, fais sans moi. J'ai la flemme. Je veux rester chez moi.
C'est parfait, non?
Dans Amazon Prime bientôt, dans une série Escort Boys. Et voilà. Je pense à elle parce que demain elle en relise aux Trois Baudets. Donc voilà.
Et
Maya Kamati, on pourrait écouter parce qu'on parlait de femmes, donc des morceaux incarnés par des femmes.
Ouais.
On pourrait elle sort un album en mars qui va s'appeler Sauvage. Et elle a Meute qui est un très beau titre. Elle a plusieurs titres. Tu peux en choisir un.
C'est toi qui te fais plaisir.
Casse-collée.
Casse-collée. Et ben je le vois. Et c'est parti. Maya Kamati, Casse-collée.
Devant moi, un roquet à pas. Ganga, ganga. Comme un rapace que la trouve son proie. La bavie coule dans ton bla bla bla. Regarde pas moi comme elle se vient de chez Aton. Ça pas la faute, mon linge. Faut toute sa fille astiquer. Rien au bout de la bouteille et l'auto. Moi, la vie, ça fait TV Power. Y'a pas de monde et la mettre devant mon zé. Casse-collé, dévie à ton zé. Casse-collé, et l'autre côté. Casse-collé, dévie à ton zé. Casse-collé, et l'autre côté. Casse-collé.
Merci beaucoup Anne-Sophie pour ces recommandations.
Cette découverte.
Patricia, de ton côté, qu'est-ce que tu as envie de faire découvrir à nos auditeurs et à
Je pense que vos auditeurs connaissent déjà, mais j'ai vraiment bien envie de réécouter un titre de Yamé, donc j'ai vu en création transmusicale à Rennes, où ça m'a vraiment bluffé. C'est hyper bien sur scène. Il va falloir aller le voir en concert parce que c'est vraiment, vraiment super. Et les titres sont tous bien. Je les ai écoutés dans le train en faisant l'aller-retour.
J'ai pris ma claque aussi en découvrant l'album.
Voilà.
T'as envie d'écouter un morceau spécifique de...
Moi, je trouve qu'il faut enfoncer le clou. Donc, le top viral, c'est bien. Hein.
C'est vrai.
Eh ben ça ne bougera pas comme ça.
Tac. Et donc, c'est Bécane dans le Colors. Et ben, c'est parti. Il y a mes Bécane.
Bitch, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien. Moi, j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les on-dit, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sur les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. Nindé sans cara, sans chicot, et je fais qu'écro bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma paille, ils sont pas concentrés, j'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bande tout, me parle pas de pas années, on n'est pas venu ici pour se pavaner. Remballe ta CG, mais cessez. Je tourne la poignée, je froisse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Je chante la bécane. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas en enfer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer.
Voix exceptionnelle.
Voix exceptionnelle et lauréat du Fer 2023.
Absolument.
Ouais.
T'avais envie d'écouter un autre morceau?
J'ai envie d'écouter, comme par souci d'égalité de genre, des garçons, encore.
Mais non, mais ça va pas du tout.
Justement.
Deux.
J'ai envie de faire découvrir le groupe avec qui je travaille, donc qui étaient eux aussi en transmusical de Rennes, dans un genre complètement différent. Ils s'appellent Our Lights et ils n'ont sorti qu'un seul titre qui s'appelle Spark.
Et je le vois, Spark d'Our Lights.
In this time of my life, I trust to be done, but I can take a step in any direction. I am stuck in my mind. Fear this hangs growing way too much. Fear this to cry soon as you touched. Make these feelings a strength, cause no one's gonna get you out of here. See the spark in the ground.
Je me permets d'avancer un peu comme ça vaut beaucoup. On met pas les morceaux en entier, on a les galères.
Justement, moi, ce que je trouve très très bien dans ce morceau, c'est que c'est pour apprendre à se réhabituer aux intros longues.
Ça prend le temps, oui.
Où on rentre dans un morceau, et ce qui est pas forcément format, mais ce qui est intéressant, justement, quand on est sur une plateforme, et que néanmoins, les plateformes diront oui, mais alors le morceau. Et je trouve que ça ramène à quelque chose d'essentiel, et que je trouve que la meilleure définition de ce groupe, c'est des guitares sur le dance floor, avec un batteur qui chante, avec une voix vocodée, ce qui est vraiment pas conforme aux normes. Et comme moi, je préfère vraiment travailler avec des gens différents.
Quand t'en avais parlé, t'avais parlé du fait que c'était pop rock.
J'ai dit rock électronique.
Ouais, du coup, je disais à quel moment c'est rock, et en fait, oui, c'est
ça.
C'est cool.
Est-ce que tu veux quand même être absent parce qu'il va falloir qu'on libère absolument
Patricia. On va libérer Patricia, mais on est obligé d'en parler parce que.
Tu peux me libérer aussi.
Mais non, tu prends ta liberté toi-même, Anne-Sophie. Tu es totalement autonome.
Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux écouter?
L'album Bitume Caviar de Isha et Limsa, qui est une frappe. Et je me bute avec cet album.
Quel morceau t'as envie d'écouter?
Lotissement, mais tous les morceaux sont cool. Mais le morceau Lotissement.
Isha, Limsa, Dolmen.
Très très chouette.
Lotissement.
Y'a des lurdis en coupe espoir, des braqueurs en YZ qui sortent les plus belles vestes, les mêmes que DJ Snake. Y'a tout plein de traitements humiliants, on te nique ta mère avec les vêtements du dimanche. On est né dans le milieu, la drogue, le crime et les chants religieux. 2-4-3 ressortissants, j'ai pris mon cœur, je suis ressortissant. J'ai baigné dans toutes sortes d'histoires, tes potes qui se droguent, tes potes qui boivent. La rue t'en fume et dit au suivant.
Je vais pas te mentir, j'ai déjà fait le charlatan. J'ai déjà dit je t'aime pour baiser, j'ai déjà mangé pendant le ramadan. Et j'en suis pas fier. J'ai déjà vu des mecs mettre du crack dans une assiette. J'ai déjà pris la veste d'un mec pour l'essayer avant de lui dire que c'était plus la sienne. Et ouais mon poteau, le monde est grand. Dis alors que je sors pas chez Wam et que j'ai maté sans fond d'écran.
Très très bon album.
Dehors ça traîne dans les halls là. Si t'es à Bibi les rôles là.
Isha Limsa, il faut écouter ça.
Magnifique. Et
toi, Salman,
écoute,
j'ai envie d'écouter Rosé, l'album Bitume.
Mais c'est exactement mon choix, c'est marrant. Je suis en train d'y penser.
J'ai vu dans tes yeux que t'avais envie d'écouter Rosé, l'album Bitume.
Tu sais quoi? Et je dirais que c'est parce que c'est sa force de persuasion. On va l'écouter si tu veux.
Rosé. Bah alors je te laisse choisir un titre si tu veux, même si
je ne connais pas.
Comment ça, tu connais pas?
Non, tu
n'as pas vu les derniers clips incroyables avec Slimane Daisy?
Moi honnêtement je pensais pas qu'il était actif encore aussi.
Une ref de...
Tu vois, c'est bizarre hein.
Je vais faire comme si je t'avais pas entendu.
Bah oui c'est bizarre.
Alors
tu parles de son
moi,
travail.
Moi je crois que je vais y aller.
Je sais mais j'ai...
Oui vas-y on fait juste...
Plaisante.
Quel morceau?
Je plaisante.
Dis-nous. Rosé, Bitume.
Vas-y.
Il pleut dans ma tête.
Il pleut dans ma tête.
Il pleut dans ma tête.
Allez,
qui était le premier single. C'est il pleut dans ma tête, mon choix très personnel. Ouais, la Maroquinerie en février et ça c'est la bonne nouvelle pour le concert, tu seras content d'être là.
Et ben avec plaisir.
Moi je suis chaud
aussi à la Maroquinerie.
Ouais,
mais
hein.
On peut en discuter aussi de recevoir aussi dans cette émission si ça le dérange pas d'aller chez un complotiste.
Platiste.
Non, tu sais que t'es platiste.
Merde, voilà.
Ça le fera rire, je pense.
Bon, en tout cas, Patricia, Anne-Sophie, merci encore une fois d'avoir participé à l'émission.
Merci beaucoup.
Merci Daz.
Merci Salman.
Merci Flaviris, merci aussi à la technique. Chek Sam aussi a participé à l'installation. Merci à tous les trois.
Merci François.
Merci François, évidemment,
pour
le montage. Et puis Thoman pour soutenir cette émission. L'émission, on prend le temps, on discute pendant 2 heures, on discute de sujets importants. On dit que on a le droit de dire que des morceaux sont éclatés.
Au sol. On insiste sur le sol. Parce qu'il a éclaté contre
le mur. J'ai choisi Rosé, c'était complètement mon choix personnel. Cette émission m'échappe.
Oui. On termine sur du Rosé. Moi, je trouve que quelque part, on fait les choses proprement.
Non, mais c'est avec plaisir qu'elle m'échappe. Encore merci. Et nous, on se retrouve dans 15 jours.